Bien, écoutez, on va commencer. Hein. Il pleut dehors, donc c'est le Black Friday, donc voilà. Voilà, ça consomme. Et il le faut aussi, hein, mais bon, c'est peut-être un peu trop d'un seul coup. Il faudrait peut-être plutôt l'étaler sur l'année. En tous les cas, merci de votre présence aux uns et aux autres. Et on va. En fait, il faut aussi considérer que nous sommes d'une certaine forme dans des séminaires de recherche. Hein, vous l'avez compris d'ailleurs à travers le déjeuner. Donc c'est aussi l'idée de creuser un peu des pistes sur lesquelles, au fond, personne ne creuse peut-être trop vraiment. Donc voilà, c'est ça l'idée. Donc aujourd'hui, c'est mode, créativité, territoire. Donc on va commencer par monsieur et madame Labbé, qui vont nous parler de l'association Les Modes du fil du temps, puis on enchaînera ensuite au fur et à mesure de l'après-midi. Voilà, à vous.
Merci. Vous m'entendez bien? J'ai pas de réponse. Oui, c'est bon. Alors, Poitiers nous a demandé une initiative personnelle et associative de mise en valeur des modes vestimentaires régionales. Nous, on a choisi bien sûr la Bretagne, puisqu'on vient de Bretagne, et nationale. On se donne une limite quand même dans le temps, c'est-à-dire de la Révolution aux années 40, associant collectage, préservation et transmission de ce patrimoine. Alors, Réjeanne et moi sommes des enfants du baby-boom. Alors, à chaque fois que je vais faire une phrase, en fait, il y aura une photo. Alors, on a cherché par Internet, parfois c'est amusant. Donc, vous voyez, on est tout à fait dans le haut, là. Entre les 45, 46, 47, 48, 49, c'est notre période à nous. Donc, on est les doyens, semble-t-il, je pense, dans la salle. Nous sommes aussi les témoins des années 68. Bah, à l'époque, on était sur la région parisienne. Donc, vous voyez la rue Gay-Lussac.
On n'est pas sur la photo.
À cette époque-là. On n'était pas sur la photo. Nous sommes issus de milieux modestes, racines en Bretagne. Alors, d'une part, les HLM, donc ça, c'est la région parisienne. Vous devez connaître encore ça aujourd'hui. Je crois qu'il y en a encore quelques tours. Et quelques bars sur la région parisienne. Et les années 60, bah c'est pour nous le milieu ouvrier, que ce soit à la SNCF ou dans les usines. Ça, c'est pour nos parents. On y va ? Voilà. Nous découvrons et vivons en région parisienne phénomène de mode de différentes manières. Réjeanne réutilise et transforme les vêtements de sa maman. Et moi, je profite de la générosité d'un employeur qui est riche marchand dans la soierie à Paris. Et en fait, il me donne les costumes griffés, boutiques, alors que ce soit Dior ou Yves Saint Laurent, que son fils ne veut plus porter. Donc j'ai eu la chance de porter des beaux costumes, réutilisés certes, mais de belle qualité. Dans un souci permanent de coquetterie, je crois que c'était ça en fait à tous les deux, hein. Nous suivons tous les deux la mode des années 70, prenons conscience que l'habit faisait le moine à cette époque. Alors, c'est-à-dire que pour ma part, j'ai dû couper mes cheveux, enlever ma barbiche et mettre une cravate, même pas une année, parce que je suis très vite passé au nœud de papillon. Ensuite, nos petites économies sont modestement utilisées par Réjeanne en nouveautés et accessoires vestimentaires. Il y en a une belle série là présentée, et pour ma part, dans une collection de timbres et de gravures, c'était classique à l'époque, hein, mais aussi dans la découverte et la fréquentation des musées. Alors j'ai trouvé une belle photo qui est marrante, là. Je pense que ça va vous plaire. À notre arrivée en Bretagne, donc il y a maintenant 40 ans, nous découvrons la danse et les traditions vestimentaires bretonnes. Nous intégrons rapidement un cercle celtique de notre commune d'habitation en Penthièvre. Alors on est les derniers au milieu. Faut chercher quand même. Dans un souci d'uniformité et de respect des traditions de ce cercle, nous faisons réaliser nos costumes suivant le modèle imposé, sans nous montrer curieux sur le peu de ressemblance qu'il y avait avec l'iconographie qui nous était présentée à l'époque. De même, nous sommes étonnés de voir les danseuses porter des coiffes et des châles anciens appartenant au cercle, donc destruction du patrimoine. Quelque peu troublés par ces pratiques, nous décidons rapidement de créer un cercle dans le Trégor, c'est-à-dire le terroir d'à côté. Alors vierge de groupe de danse bretonne, procédons à une étude rigoureuse du costume traditionnel de ce nouveau territoire pendant toute la période du XIXe siècle et le début du XXe. Alors on a la chance en Bretagne d'avoir un maintien des traditions vestimentaires jusque dans les années 50. Nous faisons ensuite confectionner tous les éléments de ce vestiaire au plus près des iconographies collectées. Par ailleurs, cette expérience va nous servir pour la constitution de notre association, bien entendu, après. Eh ben, vous nous voyez quand on était beau. Ensuite, nous faisons ensuite une initiative d'amateurs, certes, pour nous. Elle était novatrice à cette époque, car les danseuses et les danseurs avaient l'habitude de porter les costumes traditionnels de la dernière mode vestimentaire du terroir, au risque de voir donc disparaître les costumes, les pièces anciennes, les unes après les autres. Alors, notre initiative, c'était certes personnelle pour ce groupe, et nous avons partagé immédiatement en prônant sur tout notre territoire une démarche raisonnée dans la recherche de témoignages, sélection des sources iconographiques, regroupement des compétences diverses. Déjà à cette époque. Hein. De cette époque datent nos collectages en coiffe, bon, voilà deux petits exemples, en châle, encore des exemples, de tabliers, en voilà aussi. Et ceci venait compléter nos premières trouvailles en jupons, en sous-vêtements, en corsets divers. Nous prenons en compte les méthodes muséales de préservation et de conservation de ce patrimoine. Pas question de les faire porter sur scène ni dans les défilés. Une fois notre association sur les rails, nous nous tournons vers un autre terroir. Celui-ci, c'était en pays Ventais. Et par le biais de la mise en place d'une commission costume interne, nous poursuivons nos recherches sur les costumes bretons ensemble de la Bretagne. Je dis souvent les Bretagnes. 19. Pour faire partager notre propre expérience, nous avions adhéré à la confédération Kendar. Alors ça, c'est vraiment spécifique en Bretagne. Il y a deux confédérations, Kendar et Warler, qui se partagent les groupes bretons. Donc la Kendar regroupe environ 10 000 personnes au sein de 150 cercles celtiques. C'est prodigieux en Bretagne, je peux vous dire. Nous avons ensuite intégré la commission costume de cette confédération en participant et en organisant des conférences et des ateliers. Parallèlement, rencontre fortuite d'un grand collectionneur nantais a été déterminante dans notre démarche. Intégrer les modes vestimentaires régionales et les modes vestimentaires parisiennes et citadines. Et je répète, donc période de la Révolution aux années 40. Et alors, on a vraiment pris conscience à ce moment-là qu'il fallait nous doter d'un outil de fonctionnement collectif, type associatif. Donc l'association s'est avérée un parfait montage dans la gestion de notre propre collection vestimentaire. Elle s'était bien sûr étoffée pendant ces 30 dernières années. Et nous avons pu à ce moment-là fédérer, par les adhésions, des compétences autour de nos amis d'abord, hein, qu'ils soient couturiers, antiquaires, animateurs, danseurs, amis d'honneur, restaurateurs ou autres personnes ressources. Donc notre création de l'association date de 2006, donc ça fait 10 ans. Elle nous a permis et nous permet encore de proposer des sujets d'exposition à d'autres associations, de promouvoir les modes vestimentaires citadines et traditionnels de la Bretagne historique, puisqu'on tient nous aux 5 départements. On a un peu de mal à raccrocher la Loire-Atlantique, mais on essaye toujours. Et ça, sur toutes les époques. Ça nous permet également de dialoguer avec les institutions publiques par des animations de sites, notamment, mais également de rencontrer d'autres collectionneurs, de monter avec eux des expositions à thème. Cela nous permet également de réaliser des restaurations dans les règles de l'art. On a appris petit à petit, hein, de gérer notre propre collection et qu'elle soit en vêtements ou en accessoires de mode. Expérience également de rafraîchir les collections privées d'autres personnes que nous, montrer notre savoir-faire, préservation et conservation de ces pièces vestimentaires fragiles, vous vous en rendez bien entendu compte. Également expérience mettre en valeur et présenter des costumes qui jusqu'à présent dormaient dans des placards pour certains collectionneurs. Et ensuite de nous faire connaître auprès des musées, de réaliser avec eux des restaurations dans le respect de la réversibilité. Et l'association Les Modes de Vie du Temps poursuit aujourd'hui toujours les mêmes objectifs. Nous avons donc pris plaisir à soutenir les expositions à thème. Alors ça avait été d'abord une expérience avec la Chambre des métiers sur les métiers de l'artisanat, Chambre des métiers du département. Donc il doit y avoir 2 photos, voilà. Et ensuite, nous réalisons régulièrement des expositions pour le compte d'autres associations culturelles, principalement, comme ici à Pontivy. Ensuite, des expositions en soutien d'associations caritatives, comme les Paralysés de France, ça c'était à Saint-Brieuc, et aussi Mémoire, Résistance et Déportation. Alors c'est vrai, c'est pas toujours réjouissant comme sujet, mais on se met à la mesure des demandes qui nous sont faites. Nous produisons également des expositions avec le concours de syndicats d'initiative, pour le compte aussi de festivals en Bretagne. Ils sont nombreux. Si vous avez l'occasion de venir en Bretagne, il ne se passe pas un jour sur les 4 mois sans qu'il y ait au moins un festival qui est organisé. Donc c'est plein d'occasions pour nous. Et notamment, on a dû produire pendant 12 ans le festival de la Saint-Loup et une exposition sur la période un mois environ. Plus rarement, nous organisons des mini-expositions à l'occasion d'événements dans des centres commerciaux ou espaces commerciaux ou publics. Plus dangereux parce que c'est fragile et on a toujours un peu peur. Alors je crois qu'aujourd'hui, on n'en fait plus. Hein, mais par contre, quand il y a une sécurité parfaite, c'est bien. Là, la dernière présentation qui vous est faite, on avait osé. C'était à Rézé, à côté de Nantes. Alors nous apportons notre concours dans le montage d'exposition pour le compte de musées privés. Alors comme ici le musée de la mode à Albi, et ça fait donc 6 ans que l'on procède à la restauration, à le nettoyage, la mise en valeur de la collection privée de Dominique Mirail, et on fabrique les mannequins à la demande. Donc c'est un petit peu comme les soutiens-gorge tout à l'heure. Là nous on s'adapte dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on a le produit fini, mais il faut que le support soit à la bonne dimension pour que le vêtement ne souffre pas. On doit être 48. Allez, tu avances. 44. Ça, c'est le musée de Saint-Brieuc. Tu avances. Musée de Saint-Brieuc, toujours. Le petit écoute de la mode. Ça, c'est des présentations qui sont faites sur des sites remarquables. Alors, en l'occurrence, là, c'est le petit écoute de la mode à Châtelaudrin, avant qu'il soit transformé. Donc, quand il était encore sous un système de gestion associative. Aujourd'hui, c'est le regroupement de communes et c'est plus du tout la même envergure au niveau relations. 49. Tous les ans, on cherche des thèmes différents. Et là, comme ici, sur le château de Rigny-Ussé, voici quelques exemples de présentations. Et cela avec la collaboration et l'organisation de Thierry Grassat, dont je parlerai tout à l'heure. Là, c'est le château de... Continue encore. Le château de Tronjoli, c'est à Gourin. Vous ne connaissez pas, je suppose, un Gourin. Mais c'est le festival de la musique bretonne et les concours de Bagadou et autres. 52, voilà le château de d'Héron à Pontivy. Exposition nécessitant toujours des recherches continuelles, de plus en plus pointues. C'est vrai que ce n'est pas notre métier du tout, le métier de la mode. Hein. On est issu de l'immobilier ou du bâtiment ou du milieu juridique. Hein. Donc c'est une découverte pour nous il y a 30 ans. Hein. Donc recherche perpétuelle, technique de restauration également à maîtriser. Alors du coup, comme on a acquis une certaine expérience au bout de 30 ans, tu peux passer à la phase suivante, on organise des stages, des conférences, toujours l'occasion de témoigner de notre passion, de notre savoir-faire, de notre expérience. Ces stages sont organisés par nous ou bien par des cercles bretons ou encore par les confédérations, qu'ils soient Kendar ou Arleur. Nous proposons systématiquement des conférences, des visites guidées de toutes nos expositions qui sont toujours sur des thèmes différents. Là, les deux dernières, c'était dans une chapelle et l'autre, c'était une maison pré-bandale à l'évêché. Je ne connais pas ce nom-là, moi non plus, tant qu'on ne m'avait pas demandé jusqu'à présent. Donc c'est là où habite le chamoine, quoi. Où habitait le chamoine. Je suis où ? Confection, mise en place de... Alors, en quoi notre intervention aujourd'hui trouve-t-elle sa place dans le cadre de votre table ronde, qui est la mode de créativité dans les territoires ? Alors, je pense en fait... En dehors de notre expérience professionnelle et associative, on a contribué à des éveils, à des initiatives extérieures. Et nous pensons, par le biais de notre association, en fait, être des déclencheurs d'initiatives. Et j'essaye de vous donner quelques exemples, en fait. Alors ça, c'est au sein de notre association Kendar. C'est la mise en place de grilles de notation de costumes dans des concours traditionnels. Bon, jusqu'à présent, c'était la musique et la danse qui étaient notées. Et bien, à un moment donné, ben, on a dit, bon, on monte des commissions costumes. Ils sont là pour travailler, pour qu'on valorise le costume. Il faut absolument noter les groupes pour qu'il n'y ait pas que la partie musique et danse qui soit notée, mais également les costumes. Donc ça, c'est en place et ça fonctionne bien. On a été les promoteurs dans la confection de nouvelles coiffes pour préserver le patrimoine vestimentaire et notamment ancien. On a mis en place la création, il y a une vingtaine d'années, de costumes élaborés à partir d'iconographies anciennes, reconstituer des pièces vestimentaires qui avaient été conservées dans des musées ou dans des collections privées. Alors voilà quelques exemples en fait de création pour des cercles, c'est ce qu'on appelle chez nous des cercles folkloriques ou des cercles bretons. Ensuite, l'intérêt s'est porté également sur la diffusion par le biais des expositions et de l'intéressement des grands couturiers. Alors là, j'ai mis JPG, vous lirez ce que vous voulez, qui a pris inspiration sur des porpans. Alors les porpans, c'est des vestes longues en Bretagne. Je suis intérêt, engouement pour des stages de broderie. Alors j'ai montré deux amis bretons qui organisent régulièrement des stages de broderie, Paul Balbouze et David Legac. Vous tapez sur le Internet et vous les trouvez si vous avez envie d'apprendre à broder. Ils sont là pour vous enseigner. Ils ont suivi les écoles Le Sage hein, au démarrage et après on l'a adapté à la Bretagne pour l'un de manière traditionnelle et puis pour l'autre beaucoup plus universitaire, je dirais. Depuis maintenant 6 ans, nous préparons la mise en place des expositions du collectionneur Dominique Miraille au musée d'Albi. Musée de la mode, donc collection privée. Prestation comporte le rafraîchissement et la restauration des pièces à exposer, la mise à la cote des mannequins, je vous en ai parlé tout à l'heure, et Réjeanne intervient derrière pour le mannequinage sur le site. Nous apportons notre soutien et à la réussite professionnelle d'un dénommé Thierry Grassa, lequel nous avait fait découvrir les modes vestimentaires citadines. Alors Thierry Grassa a depuis passé ses examens pour devenir expert textile à la CNES, c'est-à-dire la Chambre nationale des experts spécialisés. Donc métier d'expert qu'il pratique maintenant auprès des particuliers, lorsqu'il y a des inventaires au moment de succession notamment, mais aussi pour les assurances, pour les commissaires priseurs. Et si vous avez l'occasion d'aller dans les salles de vente, ben vous le croiserez peut-être. Donc on partage avec lui la passion pour les expositions à thème, notamment au château du C que vous avez vu tout à l'heure. Nous stimulons un jeune couturier, Doré, j'ai donné les coordonnées tout à l'heure, Romuald Hervé, qui est sur Auray, donc, qui participe parfois avec nous à des projets de confection et de création sur l'ensemble de la Bretagne. Nous avons proposé notre concours scientifique pour la création d'un musée à Cabourg en 2019. Ça a été annoncé en 2016. Nous étions à ce moment-là en exposition pour le compte des Amis de Vinteuil, qui sont à l'origine de notre venue aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien compris, c'est eux qui ont fait le relais pour que nous venions vous présenter notre association. Alors, en conclusion, nous espérons avoir œuvré et toujours être à la pointe du partage de la même passion qui est commune à mon épouse et à moi-même. On essaie de faire d'être encore porteur de projets dans le domaine de la mode, sur notre territoire et peut-être dans le vôtre. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de traditions vestimentaires dans Poitou-Charente ou en Pays d'Aquitaine, s'il y a quand même un petit peu, ça va. Donc il y a de l'espoir. Merci de votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos questions. Je crois qu'il y a un petit commentaire. Merci. Alors, je vous signale que j'ai mis un petit bonus. Donc s'il vous reste encore un peu de temps, on pourra passer le bonus.
Ok, merci. Merci de cette présentation. Peut-être, oui, des questions, des remarques des uns et des autres ou des interpellations.
Vous êtes combien dans votre association? Parce que vous faites quand même beaucoup d'activités, vous êtes sollicité un peu partout. Et donc, du coup, notamment pour Albi, etc., c'est vrai que c'est un gros travail. Donc, vous êtes combien?
On est 7 personnes. Oui, oui. Mais je pense qu'on est relais. C'est-à-dire que il ne suffit pas d'être très nombreux dans une association pour véhiculer des motivations en s'adressant à un bon couturier, un bon ami d'honneur, un bon prestataire dans un domaine. Donc on est des relais plutôt que des actifs internes. Alors en fait, la spécialisation interne, c'est Réjeanne dans la confection des coiffures à partir de perruques, tout ce qui est lavage, blanchiment, amidonnage, repassage, petite restauration. On a une restauratrice à demeure dans l'association qui nous fait toutes nos rafraîchissements, parce que souvent les collectionneurs n'aiment pas qu'on mette le mot restauration, et je dirais même que les musées n'aiment pas du tout, parce que comme on n'est pas professionnel, on ne peut pas mettre le mot restaurateur dans nos textes. Donc en fait, on fait des rafraîchissements. Et puis ben, moi-même, je m'amuse à restaurer des toiles, peintures, je fais les mannequins. Je repeins les mannequins, je leur donne une personnalité différente suivant les couleurs de la robe, je leur change les yeux.
Et comme on est là aussi pour examiner des pistes possibles, là on se jette des idées, moi je pense à Indiscrète, à Chauvigny, puisque Chauvigny a un patrimoine fort, ça peut être intéressant aussi de faire un travail à un moment donné sur l'histoire de la lingerie depuis peut-être pas l'Antiquité, et de faire appel à vous ou des compétences, voilà, il y a peut-être des choses nouvelles. C'est aussi le but de ces rencontres, c'est d'imaginer des choses un peu nouvelles. Parce que le marketing territorial, on nous bassine avec ça, mais souvent de fois, c'est toujours les mêmes choses. Donc, à un moment donné, quand on est dans un territoire, on va dans un autre et on fait toujours la même chose. Donc, c'est peut-être des idées. Voilà, c'est un peu du délire, mais voilà.
Oui, bonjour. Florent Blin, entrepreneur culturel et historien de l'art. Ce qui m'intéresse dans votre démarche, un des aspects qui m'intéresse dans votre démarche, c'est le lien que vous faites entre l'animation des territoires, le côté un peu festif et grand public, et le lien avec la culture plutôt muséale et scientifique. Et j'aurais voulu savoir, d'une part, si vous aviez constaté une porosité entre les entre les publics, et puis dans l'organisation des événements ou dans la vie de l'association, il y avait des façons de procéder pour que cette mixité-là s'opère. Puisqu'on sait que, à la fois, vous le dites, hein, il peut y avoir un festival par jour en Bretagne sur ce côté-là, sur ces valeurs-là. Et puis, de l'autre côté, on voit, j'avais suivi un petit peu les rebondissements suite au projet, à la fermeture potentielle du musée du tissu à Lyon, des remarquables collections comme ça, et qui sont en danger parce qu'aujourd'hui, ils ne trouvent pas de public et vraiment de façon de fonctionner. Merci.
Alors, je vais peut-être répondre partiellement et Réjeanne va peut-être continuer. En fait, moi, je me souviens d'un événement qui nous avait bien perturbé. On avait mis en place une exposition sur les châles et les châles, donc le châle anglais, prononciation anglaise, et les châles européens, disons, et une exposition de 6 mois. Et pendant la période de cette exposition, nous avions fait une petite distribution de flyers sur les chaises de... Il y avait bien 500 personnes le jour d'un concours de véhicules automobiles anciens où les dames se promenaient avec des chapeaux 1900 avec leur voiture 1930, etc. Donc on s'était dit, quand même, ça valait le coup de les inviter à venir voir qu'est-ce que c'était qu'effectivement qu'un costume ancien. Et en fait, de la distribution qui avait été faite, nous avons eu 0 venu le lendemain. Donc je crois qu'il y a effectivement beaucoup à faire avant que les gens comprennent qu'est-ce qu'est le déguisement et qu'est-ce que c'est qu'un costume ancien et comment on peut faire la passerelle entre les deux. C'est à mon avis très difficile. Je donne cet exemple-là, tu auras peut-être un deuxième.
Moi, personnellement, j'ai une autre anecdote. Quand on a commencé avec le costume breton, on a donc fait les 5 départements. Il y avait 3 départements qui nous intéressaient en particulier puisque les autres étaient bien occupés par d'autres personnes et bien faites. Et dans ces 3 départements, il a fallu inculquer la mode civile chez nos Bretons, entre guillemets, avec leurs costumes bretons. Ils s'imaginaient tous que les costumes bretons venaient de la Bretagne et qu'ils sortaient uniquement de leur ville ou de leur campagne. Donc on s'est évertué pendant plus d'une dizaine d'années à faire comprendre que le costume civil est passé du civil. Il a traversé la frontière bretonne et il est devenu un habit commun à certains Bretons, pas tous. Certains départements ont bien gardé leurs coutumes et leurs vêtements. Et ça, ça a été une galère et une quête perpétuelle depuis très longtemps. Et c'est seulement il y a environ 4 ans que l'on commence à avoir du costume civil porté, je vais vous citer une ville pas très loin de Saint-Brieuc qui va être Guingamp, où on s'est aperçu quand même que l'homme avait vite enlevé son costume et son chapeau et il s'habitait à la mode parisienne, c'est tout. Et ça commence seulement depuis, je vous dis, 4-5 ans que c'est inculqué dans les cercles et qu'on le porte à ce moment-là et qu'on se dit qu'il y a bien deux types de vêtements et deux types qui s'adaptent ensemble et qui se côtoient.
Oui, je crois que culturellement, on voit le Breton avec ses costumes brodés comme s'ils portaient ça tout le long de l'année. En fait, ils portent ça que les jours de pardon ou à leur mariage, quoi. Donc on a transmis en fait un aspect richissime du Breton, alors que ben, effectivement, ils n'avaient pas cette possibilité financière pour porter ce costume toute l'année. Mais c'est vrai qu'on est très fiers de porter le plus beau des costumes, le plus brodé. C'est logique.
Merci beaucoup. Je vais appeler Jean-Marc Couet à nous rejoindre. Mais restez, hein. Restez ici hein, pour l'instant. De toute façon, on peut continuer à échanger tout au long de l'après-midi. Hein. Vous en faites pas. Et je voulais signaler aussi qu'on a fait une prise vidéo. On commence à faire ça maintenant depuis peu. Et donc ça, vous pouvez aussi vous y reporter sur le site. Céline vous enverra les coordonnées de tout ça. Donc Jean-Marc Couet qui va nous parler d'un cas territorial aussi, puisque c'est celui de Châtellerault.
On s'est déjà vu, donc je ne vais pas vous saluer, mais je vous salue quand même. C'est avec plaisir. Oui, moi j'ai été très intéressé par le débat et la présentation d'avant, dans la mesure où il y a eu une forte volonté de développer la qualité culturelle à travers les vêtements d'un territoire. Moi, je n'en suis pas là, parce que je représente aujourd'hui plutôt une association qui est l'association Châtellerault-Sabouge. Cette association-là est l'ancienne fédération des acteurs économiques, qui est toujours une fédération d'ailleurs d'acteurs économiques, mais qui ne s'appelle plus FAE, puisque quand on parle de territoire, on parle aussi de la psychologie qui peut être développée à l'intérieur des territoires et que des appellations telles que fédération fait plus penser à des partis politiques que des partis économiques. Or, je suis à la tête d'une association de commerçants et d'acteurs économiques, tout venant, c'est-à-dire artisans, professions libérales, PME, PMI, TPE, TPI. Donc, il n'y a pas de spécialisation. Et à travers tout ça, avant d'attaquer, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a fait pour valoriser un territoire comme Châtellerault à travers la mode, puisque c'est ça le débat. Il faut quand même partir d'un élément qui me paraît prépondérant, c'est que le développement des territoires, il passe par la créativité. Ça, c'est sûr, c'est vrai. Et aujourd'hui, on a aussi bien d'ailleurs des membres d'Éducation nationale qui nous expliqueront que la créativité est importante, je suppose. Mais on est tous là pour créer quelque chose, parce que tous ceux que j'ai vus cet après-midi, mais vous créez quelque chose. Et que cette créativité, elle développe des entreprises. Elle développe des activités. Donc à travers derrière tout ça, c'est du business, c'est de l'économie. Et que si on n'a pas une structure économique qui peut valoriser l'ensemble des créativités qui sont présentes dans un territoire, on ne va pas avancer beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est peut-être dur à dire, mais je pense que l'économie, le développement économique ne peut plus être le sujet d'une association économique pure et dure. Pour moi, une association correspond très bien à ce que vous faisiez, vous, messieurs, à ce que d'autres font dans la culture, dans le caritatif, mais dans l'économie, non. L'économie, c'est du business. Donc, de toute façon, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Dans le temps, ça pouvait peut-être se faire. Mais aujourd'hui, c'est fini. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on ne peut pas vivre, une association ne peut pas vivre comme la nôtre, ne peut pas vivre de la cotisation de ses adhérents. Et des adhérents, c'est quoi? Chez nous, c'est ce que j'ai dit, c'est les acteurs économiques. Un acteur économique, il attend autre chose que d'avoir la carte d'une association qui fédère, on ne sait pas trop quoi, quoi. Si ce n'est le développement économique, oui, bien, okay. Mais comment, on ne sait pas trop. Donc aujourd'hui, notre raisonnement est plus de partir sur des développements tels que vous avez là, c'est-à-dire que là, effectivement, on a de la créativité, tout ça, c'est de la créativité, que ce soit des produits, des services, que ce soit du partenariat, que ce soit des animations. Et dans les animations, on en parlera tout à l'heure, on a effectivement créé deux défilés de mode qui sont les exemples emblématiques de l'année 2017 de Châtellerault à Bouche, puisque c'était les deux seules actions qui ont vraiment rapporté du public, qui a eu une renommée, qui a eu une retombée. Mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, des associations telles que la nôtre et telles que vous avez tous dans vos environnements urbains ou ruraux, c'est des associations qui ne peuvent vivre que par des financements publics. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste sous le monde associatif. Sauf que ces financements publics deviennent en complément des financements des adhérents. Donc, si, je vais vous donner un exemple. Pour adhérer chez nous, aujourd'hui, c'est 100 euros par an. On a 130 commerçants qui ont adhéré sur 300 sur Châtellerault. Donc j'ai en rentrée d'argent 13 000 euros. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 13 000 euros? Rien. Strictement rien. Par contre, avec un développement à côté de moi de financements publics, municipaux, départementaux, régionaux, les CCI, les chambres de métiers, l'État... Là, on peut peut-être essayer d'envisager d'autres choses. Donc aujourd'hui, c'est la problématique des associations de commerçants, en telle qu'elle soit, c'est ça. C'est effectivement de mieux organiser notre fonctionnement autour des financements. Et là, on peut vous apporter effectivement quelqu'un qui veut créer, pourra s'adresser à nous et on aura des moyens pour pouvoir l'aider à aller au bout de sa création, de son développement et de son installation. Mais si on n'a pas ça... Ça va être le parcours du combattant qui existe aujourd'hui, où tout le monde doit aller à gauche, à droite pour avoir des réponses qui sont « oui, ben non, vous reviendrez, on vous verra demain, ce n'est pas la bonne personne, etc. » Nous, ce n'est pas ça. Il faut vraiment qu'on change de mentalité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, hormis les produits qui sont indiqués, que vous voyez là, peut-être vous ne les voyez pas trop bien, mais il y a surtout la communication et les partenariats. La communication, aujourd'hui, si vous ne faites pas de l'Internet, si vous ne faites pas du Facebook, vous êtes mort. Donc, vous avez tout intérêt à vous spécialiser pour... que ça puisse fonctionner et que vous apportiez ce service-là auprès des acteurs économiques. La deuxième chose, c'est les partenariats. Pareil, c'est comme avec les politiques. Il faut qu'on soit en lien direct avec tout ce qui est médias, presse, radio, télévision, pour qu'à chaque événement, on soit relayé pour qu'on puisse vous mettre, vous, en avant. Tous les créateurs tous ceux qui ont fait de la créativité doivent être mis en valeur. Et ça, on a la chance aujourd'hui dans notre époque d'avoir des outils et un potentiel de médias qui soit assez important. Il faut savoir s'en servir, c'est tout. Mais pour s'en servir, c'est vrai que si tout le monde s'adresse à ces médias-là, le média finit par dire « oh là là là, fuchuchu ». Alors qu'on a, nous, un pouvoir d'une exclusivité de dire « voilà, on voudrait mettre en avant telle chose ». Est-ce que vous ne pouvez pas venir avec nous? On emmène avec nous le maire, on emmène avec nous le conseiller général, enfin le conseiller départemental, le conseiller régional. Et automatiquement, ça crée une émulation qui fait qu'on va mettre en valeur certainement plus les produits qu'on les mettait dans le temps. Dans le temps, ça n'existait pas. Ça. Chacun était dans son petit coin. L'association de commerçants, elle était gérée par un commerçant qui, en plus de sa boutique, devait gérer ça. Ce n'était pas gérable. Enfin, c'était gérable, si, dans le temps, mais plus maintenant. Donc, ce que je voulais vous parler, c'était ça. Donc, la dynamisation économique qu'on est en train de mettre en place, c'est dans Châtellerault. Châtellerault est devenue une ville expérimentale. Là, c'est pareil. Si vous êtes le pur commerçant derrière sa boutique avec sa petite association et qui ne prend pas en compte que Châtellerault est une ville expérimentale pour le développement économique et la dynamisation économique, on ne va pas avancer. Il faut que nous, les commerçants, même si j'en ai que 130, mais sur 300... ou 280, il faut que moi j'ai les 280 qui soient avec moi pour pouvoir me battre, pour pouvoir redynamiser le centre-ville. Deuxième chose, c'est que les centres-villes, c'est plus ce que c'était dans le temps. Je vous prends un exemple de Châtellerault, la rue Bourbon, la rue principale, 900 mètres de long. Politique, nouvelle politique de dynamisation des centres-villes, on va diminuer la rue de moitié. C'est-à-dire qu'on va condenser le maximum de commerçants dans un minimum de distance pour que les clients, le public, ne se tapent pas des longueurs de rue parmi lesquelles il va trouver 50 mètres de rue avec des magasins et puis juste après 50 mètres de non-magasins ou de magasins complètement vides. Donc c'est, ça aussi, c'est toute une politique qu'il faut mettre dans la tête de chacun que le centre-ville va évoluer. La deuxième chose, c'est que, oui, je suis commerçant, d'accord, ok, mais qu'est-ce que je fais pour que mon collègue d'à côté, on soit en osmose ? Eh bien, on va créer des quartiers. Donc aujourd'hui, le travail de l'association, de la fédération, c'est de dire, mettez-vous en quartier de 10 à 12 commerçants, vous nous dites ce dont vous avez besoin, et nous, on se charge de la mise en place et de la mise en œuvre. Vous n'avez pas à faire les demandes de financement, vous n'avez pas à faire les demandes d'autorisation, vous n'avez pas à faire les demandes de logistique, on s'occupe de tout. Mais une seule chose vous importe, c'est l'idée. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et c'est vrai qu'il y a des quartiers qui ont des demandes qui sont différentes de d'autres quartiers. Donc on peut pas généraliser, à part les fêtes de Noël, à part les grandes occasions. Mais dans l'année, après, il faut faire des opérations qui soient bien ciblées par rapport aux quartiers qui le souhaitent. Et la troisième chose qui est importante, c'est que cette forme d'adhésion, je vous parlais tout à l'heure de 100 euros d'adhésion forfaitaire pour avoir la carte du parti, la carte du parti de l'association des commerçants, c'est fini. Donc maintenant, on va vendre des produits. Vous êtes intéressé par un spot sono dans la sono de la ville, ça va coûter tant. Un autre va me dire, j'aimerais plutôt une page Facebook ou une page sur Internet. Ça coûte tant. C'est-à-dire que maintenant, l'adhésion, et vous êtes adhérent de fait. C'est-à-dire que dès que vous achetez un produit, vous êtes adhérent. Mais au moins, vous avez acheté quelque chose de concret, pas du numéro 1. Vous voulez participer à un défilé de mode ? Pas de problème. Ça a été gratuit en 2017. En 2018, ça va être payant. Parce que ça demande un investissement publicitaire qui fait qu'il faut rentrer dans une logique. Mais là, vous allez payer pour une publicité qui vous rapporte directement puisque vous allez participer à un défilé de mode qui, demain, peut vous amener d'autres clientèles chez vous. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est en gros, c'était plus pour vous sensibiliser sur le fait que les associations de commerçants doivent prendre conscience qu'aujourd'hui, on doit vivre différemment. Alors maintenant, le défilé de mode. Le défilé de mode, c'est une action qui nous a été demandée par la ville de Châtellerault, donc par M. Ablin, son maire, qui, lui, n'était pas du tout, à l'origine, n'avait pas forcément des pensées économiques fiables, puis intéressées. Voilà. Lui, c'était plutôt le patrimoine et la culture, et l'économie, ce n'était pas trop sa tasse de thé. Et il s'est rendu compte, au fil des années, que ça devenait vraiment une importance, parce que son centre-ville mourait. Donc, il s'appuie maintenant exclusivement sur notre association, et dans cette association, enfin dans cette collaboration, il nous a demandé, la ville nous a demandé, les services économiques de la ville et puis le maire et puis les adjoints m'ont demandé. Non, c'est pas ça. Hein. Nous ont demandé de faire une quinzaine commerciale. Et dans cette quinzaine commerciale, nous avions un tas de rendez-vous qui étaient propres au commerce, donc des promotions chez chacun des commerçants, etc., etc. Il y avait les rues en fête qu'on a créées dedans. C'est-à-dire que tout Châtellerault était en fait. Mais nous avons dit, ça serait bien qu'on fasse un défilé de mode. Donc pour nous, c'était tout nouveau, on ne savait pas. On a dit, oui, un défilé de mode, on va se parler comment genre. Donc au même titre que les quartiers, j'ai créé à l'intérieur de la fédération une commission défilé de mode avec des commerçants. Et je leur ai dit, écoutez, occupez-vous de l'organisation du défilé de mode, dites-nous ce dont vous avez besoin et on vous trouvera les moyens pour le faire et pour pouvoir le développer. Et en fin de compte, on est parti avec 15 commerçants. Est-ce que je peux voir la diapo, l'autre diapo ? Parce que celle-là, c'était la généraliste, pardon. Au départ, on est parti sur 15 prêt-à-porter féminins. Donc 15 commerces qui ne faisaient que du prêt-à-porter. Les voilà, ici. La déléguée à la commission, partant de ces 15 commerçants, a dit, OK, on va les habiller, mais il va falloir les coiffer, il va falloir les maquiller, il va falloir les chausser, il va falloir leur mettre des bijoux, il va falloir leur mettre des sacs à main, il va falloir enfin, qu'ils soient complets pour faire un défilé. Et donc, il s'est rassemblé autour de ces 15 commerçants, en tout, 38 commerces, 40 en gros, qui se sont répartis dans la coiffure, dans la parfumerie, dans la maroquinerie, dans l'opticien, dans l'optique et dans les chaussures. Mais là c'est une opération qui est une opération de coordination interne, c'est-à-dire qu'ils se sont débrouillés entre eux, ils ont été se voir, ils ont été se voir, ils ont organisé le défilé en disant, ben voilà, on va faire ceci, on va faire cela, mais il nous faut autant de mannequins, il faut les chausser, il faut les habiller, il faut les décorer. Donc voilà, vous avez ici la réussite même qui a fait que Châtellerault nous a prêté la place Émile Zola. Donc la place Émile Zola, c'est la place la plus centrale qui a été refaite à neuf par la mairie. La mairie nous a dit, je vous donne la place, je vous prête une sono, je vous donne ce qu'il faut, les tapis, les machins, tout ce que vous voulez, les garde-fous, les gardes... Mais faites-le. Et on l'a fait. Premier essai, 450 personnes qui sont venues nous voir de l'extérieur. Deuxième essai qui s'est fait au mois de septembre, on a eu plus de 500 personnes. Donc c'est quelque chose qui a eu un très très fort ressenti. Et là où ça devient très important, c'est que les commerçants ont dit sur le deuxième défilé, on va donc défiler un peu plus tôt que le premier et on va laisser les magasins ouverts. Et là, il y a eu au niveau des ventes un tabac. Parce que les gens ont vu des modèles qui ont défilé et ils voulaient ces modèles-là tout de suite après. Et comme ils savaient très bien que dans un petit commerce, il n'y a pas un stock comme chez ProMode ou ailleurs, il fallait y aller tout de suite. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs, comme par rapport à ProMode et les grandes enseignes, que les grandes enseignes ne sont pas exclues là-dedans. Elles sont conviées de la même manière. Sauf que lorsque vous demandez à Devred ou à Pantachop de venir, il faut qu'ils fassent une demande au niveau de la direction régionale, qui elle-même fait une demande au niveau de la direction nationale, etc. Donc, voilà. Mais c'est pas plus mal, parce que ça fait travailler le petit commerce indépendant. Donc, à la limite, pourquoi pas. Donc, voilà l'exemple type de quelque chose qui... Alors, ça a été gratuit, mais pour 2018, ça va être payant. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Marc. Comme ça, au passage, on balance des idées, c'est là aussi l'objet. Châtellerault possède aussi des richesses patrimoniales qui pourraient être reliées à l'économique. Je pense, par exemple, à Rodolphe Salis, que peu de Châtellerault connaissent, mais qui est quand même le créateur du chat noir à Paris, de tout le dynamisme qui a eu lieu ensuite, que les Américains ont récupéré, c'est-à-dire que tout le surréalisme, tout ce qui s'est passé en matière d'art ensuite, Salis était un peu l'inventeur grâce au fait qu'il accueillait dans le chat noir tout un tas de gens qui étaient assez déjantés, entre guillemets, pour l'époque. Et Salis vient de Châtellerault, et malheureusement, il est peu mis en valeur. Et il y a même, je crois, à savoir, il a possédé quelque chose d'une propriété à Nintré, et il y avait dans une grotte, il y a encore des peintures murales, assez érotique, je crois, d'ailleurs, faut-il savoir, mais qui sont assez intéressantes et qui ne sont pas mises en valeur. Voilà, au passage.
Pour rebondir sur ce que tu dis, Jackie, oui, j'ai eu une discussion avec la Chambre de commerce qui était intéressante parce que eux, ils ont trouvé l'astuce pour tirer des financements vis-à-vis du conseil départemental. Si vous accommodez la culture à une opération comme économique, vous pouvez effectivement obtenir des subventions du conseil départemental maintenant. Ce qui n'est pas le cas si vous faites une option purement économique et que vous développez la culture dans l'économie. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, aujourd'hui, nous, on inverse un petit peu la peur en disant, effectivement, et c'est pour ça que tout ça, c'est intéressant, c'est que tout ce qui peut se faire en créativité devient de la culture. Et que cette culture-là, si on la met en avant, même si c'est au profit, enfin en même temps qu'une animation commerciale ou économique, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est qu'il y aura quand même une mise en valeur et de la créativité qui sera présentée, comme du commerce qui sera développé derrière. Donc pensez-y, parce que ce sont des choses aussi qu'il faut que lorsque vous avez des entreprises qui développent un certain nombre de créations artisanales, d'aller voir les chambres de commerce ou les chambres de métiers en leur précisant bien qu'on pourrait peut-être associer mon produit à une campagne de telle ou telle chose.
Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, il y avait quelques chambres de commerce et d'industrie qui avaient un animateur culturel à leur sein. Il y a très peu, il y en a quelques-unes, je crois qu'il y en a une dizaine. Et moi, j'avais participé à un échange à Montpellier où ce sont les artisans et les commerçants de tout Montpellier qui bénévolement avaient restauré un théâtre. Il y a tout un travail qui a été fait et c'est vraiment gigantesque. Donc on voit qu'on peut démultiplier à partir de là, effectivement, je crois que le lien économie-culture est à travailler. Oui, oui, oui. Et à Châtellerault, il y a aussi d'autres aspects. Il y a le fameux théâtre qui a été rénové, qui est excellent, mais on pourrait imaginer dans ce théâtre des costumes de l'époque. Voilà, il y a après des tas de choses qu'on peut décliner.
Défilé de mode, si on en fait un en hiver, il se fera là. Mais ce sont des opérations qui sont axées sur le développement économique local, centre-ville. Pour Châtellerault, c'est pour ça qu'on le faisait dans plein centre-ville. Mais maintenant, on peut effectivement le décentrer parce que les gens viendront. Et la dernière chose que je vais faire, après je vous laisse le micro, c'est le commerce éphémère. Pour tout ce qui est artisanat, création, artisanat d'art et autres, vous avez aujourd'hui des municipalités qui ont des locaux vides et qui sont prêts à les ouvrir et à vous offrir le gain de pouvoir l'habiter pendant une période à des conditions qui sont intéressantes, voire gratuites. Et surtout, ça vous permet de mettre vos produits et vos créations en évidence. Je travaille avec les Amis du Poitou. Les Amis du Poitou, c'est un groupe folklorique qui fait des superbes costumes comme vous aviez vous, enfin qui portent surtout. Et quand ils font une animation ou un concert ou un festival, on leur prête une vitrine et ils décorent la vitrine pour faire de la publicité pour leur campagne, pour leur prestation. Donc, vous voyez, ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. Et les soutiens-gorge à cachette, pourquoi pas ?
Voilà, on va parler après. Est-ce qu'il y a des questions sur Châtellerault ou sur ce... Sinon, de toute façon, tu restes dans la salle, donc il n'y a pas de problème. Tu pourras répondre à tout, si j'ose dire. Je vais appeler Béatrice Mangela, co-dirigeante de l'entreprise Indiscrète, pour qu'elle nous présente ce qu'est cette entreprise précisément.
Je ne vous redis pas bonjour, on s'est dit bonjour tout à l'heure. Donc en effet, comme je vous le disais, co-dirigeante de la société Lingerie Indiscrète. Donc la petite histoire, 10 ans chez Aubade, 2 plans de licenciement en 2 ans, un poste sur Paris proposé pour moi-même et mes deux associés, Christelle et Didier, que nous avons refusé tous les trois, tout simplement parce que quand vous subissez 2 plans de licenciement en 2 ans, eh bien, premier plan de licenciement, vous croyez à l'après. Vous reconstruisez, vous réorganisez, vous reboostez vos équipes. Mais quand un plan de licenciement retombe peu de temps après, vous vous dites à quand le troisième ? Donc, comme on disait tout à l'heure à table, en fait, un licenciement, c'est plusieurs étapes. Hein. C'est d'abord le coup de masse, ensuite la colère, et après se dire comment on va rebondir, qu'est-ce qu'on peut faire. On était tous passionnés de notre métier et du produit. Moi, j'ai toujours travaillé que dans la lingerie, et c'est vrai que c'est une passion pour moi. Et faire autre chose, à l'époque, c'était pas envisageable pour moi. Donc, je voulais absolument garder ce beau métier, rester dans ce beau produit et ces matières riches. Et là, une idée, on a amené une autre, et on s'est dit... pourquoi on ne créerait pas notre propre lingerie ? Donc on a travaillé avec une agence de communication, bien sûr, pour trouver le nom, déposer la marque, parce que c'est quand même compliqué. Le projet, en fait, a mis un an à sortir. Et on voulait garder aussi du personnel de BAD, parce que une deuxième fois, c'était 140 personnes qui se retrouvaient sur le carreau, qui avaient toutes 27 ans à peu près d'ancienneté chez Aubade, qui avaient démarré chez Aubade et qui n'avaient connu que ça. Et dans le secteur, ce n'était pas forcément évident pour elles de retrouver quelque chose ou de basculer vers un nouveau métier. Donc, on s'est lancé. Alors après, se lancer aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est déjà pas simple. Je pense qu'il faut un petit peu une part de folie aussi pour fabriquer en France. Mais c'est un challenge qu'on s'est lancé et pour lequel on se battra très longtemps, j'espère. Donc le concept, on crée tout à Chauvigny, on fabrique à Chauvigny et toutes les pièces qui sont fabriquées à Chauvigny partent auprès de nos différentes conseillères de vente au niveau de la France. Pas de gestion de stock, alors très peu, c'est vous mentir si je vous dis pas de gestion de stock. Au niveau des bas, on fabrique certaines quantités par taille, tout simplement parce que sur des bas, on a moins de personnalisations qui nous sont demandées, contrairement à un soutien-gorge qu'on va pouvoir adapter aux besoins de la morphologie de la personne, après que notre conseillère de vente ait conseillé la personne sur sa taille. Donc une taille, ça commence par une taille d'armature. Ensuite, il y a une profondeur de bonnet et ensuite, il y a un tour, le tour du soutien-gorge qui va déterminer la taille finale du soutien-gorge. Donc, n'ayant pas de produits de stock, ça va nous permettre de pouvoir adapter quelqu'un qui a une différence mammaire, un bonnet C, un bonnet B, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Quelqu'un qui a une prothèse, donc je vous montrerai tout à l'heure, je vous ai emmené quelques articles adaptés. On va pouvoir lui rajouter une poche pour pouvoir mettre sa prothèse mammaire. Ça peut être aussi quelqu'un qui est allergique à certaines matières, eh bien on va pouvoir lui doubler le bonnet entièrement de coton. Quelqu'un qui fait une allergie à un type d'agrafage, on peut aussi doubler de coton. On a eu aussi des demandes par rapport à des traitements cardiaques, en fait, par rapport à des pompes. La personne est obligée d'avoir la pompe en continu sur elle. Et on a eu des demandes parce que les personnes, en fait, fixaient un gant de toilette au niveau de leur dos de soutien-gorge pour pouvoir glisser la poche, la pompe. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a eu des demandes. Et en fait, on a adapté comme c'est une sorte d'écharpe sur laquelle on pose une poche. Elle le passe par-dessus son dos de soutien-gorge et elle n'a pas ce problème d'épaisseur au niveau du gant de toilette. On a aussi des demandes par rapport à des gens qui sont diabétiques pour leur pompe pareille à insuline. En fait, sur les devants du slip, on peut venir simplement rajouter une petite poche sur l'envers du slip. Ça ne se voit pas et elle glisse en fait la petite pompe pour dans la poche pour son traitement. Voilà, n'ayant pas de stock, on peut faire un petit peu ce qu'on veut à la demande. Et ça, c'est une vraie différence sur le marché parce que le conseil qu'on apporte, personne aujourd'hui le fait. Ce côté personnalisable et adaptable, personne ne le fait non plus. Et vous pourriez me dire, mais pourquoi avoir choisi aussi le mode de distribution de la vente directe, hein ? Tout simplement parce que déjà, avoir des boutiques en propre, là, c'est un financement qui est très élevé. Et on n'avait pas du tout la capacité là-dessus, pas pour partir par rapport à ce mode de distribution. Et c'est aussi avoir cette proximité par rapport à la cliente, cette relation. Et plus il y a de relations avec la cliente, plus la cliente devient fidèle. Et voilà, il y a une confiance par rapport à la vendeuse, mais il y a une confiance aussi avec le produit qui s'installe. Et une cliente qui est satisfaite, elle n'ira pas voir demain un autre produit si elle a entièrement satisfaction chez nous. Au niveau des matières, on est essentiellement sur des matières françaises. Alors, pas à 100%, parce que malheureusement, avec toutes les délocalisations qu'il y a pu y avoir en France, on ne trouve pas toutes les matières en France. Donc, on est essentiellement en France, mais sinon, c'est Italie, Suisse, Belgique et Autriche également. Donc, on n'a pas de matière asiatique ou autre. Ça, c'était aussi important pour nous parce qu'on connaissait aussi des fournisseurs européens sur qui on pouvait compter. Parce qu'une des problématiques, comme je disais tout à l'heure, c'est que nous, quand on a démarré, on avait zéro cliente, on avait zéro vente. Donc, notre besoin par rapport à des grandes marques, nous, il était parfois de 300 mètres. Et des grosses marques ont des besoins de 15 000 mètres ou 50 000 mètres. Donc, nous, on était vraiment très petits. Donc, en fait, on a été rencontrer tous nos fournisseurs. Alors, bien sûr, ils nous connaissaient par le biais d'Obad, mais pas par rapport à notre fonction, parce qu'on avait tous des fonctions très différentes chez Obad et pas forcément en relation directe avec les fournisseurs. Mais on les a tous démarchés en leur présentant le projet, en leur demandant déjà s'ils croyaient dans notre projet et s'ils voulaient nous suivre, parce que c'était pas évident, en ayant des besoins très petits. Et puis, on était une journée d'entreprise, on démarrait, donc aussi cette confiance était importante pour nous. Donc voilà. Après, c'est une belle histoire. Comme je vous disais, on a fêté le 7e anniversaire il y a peu de temps, le 9 novembre. Après, c'est loin d'être gagné. Comme je dis, je crois que dans les entreprises, il y a différentes étapes. Et je crois que de toute façon, c'est jamais gagné. Ça peut vite basculer. On a ouvert de la sous-traitance en fabrication il y a un an. On a eu un couac à la rentrée. Là, on a eu une rentrée un peu difficile. Mais voilà, après, il faut savoir rebondir. On a retrouvé des petits contrats de sous-traitance pour faire face aussi à une baisse au niveau des ventes qui s'explique aussi par un pouvoir d'achat qui a changé. Les habitudes de consommation ont changé également. Et la priorité de chacun est très différente. Certaines vont avoir une priorité de lingerie. La lingerie, c'est un produit qui ne se voit pas. Parfois, on va mettre plus la priorité sur des choses qui sont visibles. Mais le dessous, parfois, on peut avoir des surprises assez importantes quand on voit les dessous de chacune ou de chacun. Parce qu'on fait aussi des boxers hommes au niveau de nos collections. Au niveau du territoire, bien, comme je vous le disais tout à l'heure, Chauvigny a été vraiment un très bon acteur au niveau de notre projet parce qu'ils nous ont suivis à 100%. Et ça, ça a été vraiment une grande aide pour nous parce que trouver un local, ce n'est pas forcément évident. Donc c'est vrai qu'au début on était plutôt parti sur Saint-Savin, mais ils n'avaient pas forcément des locaux adaptés. On a fait aussi Valdivienne, mais ils nous proposaient des locaux alors là complètement vétustes, il n'y avait même pas les toilettes dans les bâtiments. Enfin, on a vu des choses un petit peu. Et Chauvigny tout de suite nous ont proposé un bâtiment qui était adapté à notre besoin. Nous ont construit un bâtiment au bout d'un an. Enfin, c'était aussi encourageant pour nous parce que construire un bâtiment de 900 mètres carrés pour une société qui avait même pas un an quand ils ont lancé le projet de construction du bâtiment, c'était vraiment qu'ils croyaient en nous et que voilà, ils étaient sûrs, enfin sûrs, on n'est jamais sûr, mais voilà, ils avaient envie de croire dans ce projet et ils étaient eux-mêmes convaincus que oui, la société allait évoluer. On a commencé à 5 personnes sur la manufacture en 2010. Aujourd'hui, on est 20 personnes. On a eu 4 départs en retraite parce que forcément, on a repris sur, je dirais, 70% des personnes venaient d'Aubade. Donc, c'est vrai que par l'âge, bien forcément, il y a des départs en retraite qui se font. Donc, la difficulté aussi, c'est de trouver des gens qui ont aussi les formations. Hein, donc ça, c'est pas forcément facile. Et des gens qui ont envie aussi de travailler dans ce métier hein, de fabrication de couture. Et honnêtement, c'est pas très très facile de trouver des jeunes. Là, on a remplacé un départ en retraite par une jeune qui nous vient du 49 de Saumur. Et qui voilà, qui était prête à déménager, à travailler, et ça c'est important. Et je pense que voilà, par votre biais, en effet, hein, c'est aussi les former justement pour anticiper ces départs en retraite et renouveler cette main d'œuvre, parce que de toute façon, si cette main d'œuvre n'est pas renouvelée, eh bien, comme on disait tout à l'heure, c'est des métiers qui se meurent. Hein, et si le métier se meurt, bah, il n'y a plus d'ateliers de fabrication de soutien-gorge à Chauvigny dans les années à venir. Non. Et qu'est-ce qui arrivera ? Ben, ça veut dire que si vous n'avez plus de main-d'œuvre en France, avec ce savoir-faire, ben, malheureusement, ça part à l'étranger. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? On a déjà beaucoup parlé tout à l'heure. Donc des actions, oui, comme les enfants de la Lune, hein, c'est important aussi pour nous. Quand on a des demandes, alors après on répond bien sûr pas à toutes les demandes parce qu'on n'a pas toujours aussi la capacité de répondre à la demande. Mais par contre, on analyse tous les projets. On a eu des projets de fabrication, comme là on est en train de travailler sur des protections hygiéniques tout en coton, en fait, hein, lavables et bio. Donc là, voilà, c'est un projet sur lequel on travaille. Ils sont déjà commercialisés. Ils ont besoin d'une main-d'œuvre française. Donc, bien sûr, si c'est rentable, on le fera. Mais par contre, bien évidemment, pour l'entreprise, on ne peut pas travailler à perte. Donc, chaque projet est analysé. On a travaillé aussi pour des sacs tout en toile pour une très grande marque de sacs en cuir. Enfin, voilà, on est ouvert, je dirais, à la fabrication aussi pour répondre à la demande parce que à aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, nos ventes ne comblent pas suffisamment l'atelier de fabrication. Donc c'était un moyen, voilà, pour nous d'avoir une autre entrée, de se dire OK, on va ouvrir la fabrication. Pourtant au début, c'était pas du tout dans nos perspectives, mais il faut aussi s'adapter aux besoins et puis savoir rebondir quand le chiffre d'affaires baisse un petit peu. Notre mode de distribution, c'est la vente à domicile. Donc, ce sont des conseillères de vente. En fait, c'est vraiment ouvert à toutes les femmes. Alors, pourquoi pas les hommes ? Tout simplement par rapport à ce conseil hein, au niveau de la taille. Elles ont toutes les tailles de soutien-gorge à disposition pour trouver la bonne taille de la personne. Donc, avec un homme, ça serait délicat. Mais c'est vraiment un métier qui est ouvert à toutes les femmes. On a des vendeuses qui ont 20 ans et notre doyenne a 76 ans et elle s'éclate. Elle fait ça, elle est à la retraite, elle a fait de la vente à domicile toute sa vie. Et pour elle, elle ne peut pas ne pas exercer ce métier. C'est un plaisir. Hein, de toute façon, je pense que à partir du moment où on travaille, il faut que ça soit un plaisir. Quand c'est plus un plaisir, je pense que là, il faut se poser et voir ce qu'on peut faire d'autre. Donc c'est vraiment ouvert à toutes les femmes. N'hésitez pas voilà, à parler de ce métier qui est peut-être fait aussi en complément d'activité, à plein temps, à la retraite. C'est aussi un moyen voilà, de créer des emplois autres qu'en tant que salariés. Nous, elles sont pas. Alors, il y a plusieurs statuts. Hein. Elles commencent en tant que VDI, donc ça, c'est un statut non salarié. C'est commissionné par rapport à un chiffre d'affaires qui est réalisé. Mais après, il y a des statuts qui sont en train de se mettre en place maintenant, tels que VRP et voilà. Mais par contre, vous m'avez donné une idée par rapport à l'histoire du soutien-gorge. Je pense qu'on pourrait, enfin, il y a quelque chose à faire au niveau d'une exposition sur l'histoire du soutien-gorge, de la corsetterie, lingerie, et derrière organiser la visite de la manufacture. Enfin, je pense que là, il y a un projet, voilà, à faire grandir dans nos têtes. Mais je pense qu'il y aurait une belle histoire et faire visiter la manufacture en parallèle, faire découvrir la marque. Enfin, je pense qu'il y a.
Vous faites des visites d'entreprise, donc
voilà, on a ouvert le tourisme économique, en effet, depuis le mois de septembre, parce que c'est important aussi de faire connaître le métier, le produit, et de faire découvrir les entreprises du patrimoine. Je pense que c'est aussi ouvrir l'esprit. Hein. Nous, on le voit au niveau des visites, toutes les personnes qui sont venues, elles vont parler de leur soutien-gorge différemment et de la marque différemment parce qu'elles ont vu, parce que des fois, voilà, le soutien-gorge est en moyenne à 87 euros, on nous dit « Ah là là, c'est cher !» Et oui, mais une fois qu'on a vu la conception du produit, le process, les gens en fait ressortent en disant « Ah non, mais en fait, c'est pas cher !» Bah oui, parce qu'un soutien-gorge, alors quand vous êtes en milieu industriel, un soutien-gorge en moyenne entre 25 et 28 minutes, ça peut mettre, moi j'ai travaillé dans la grande distribution à une époque, c'était 17 minutes le soutien-gorge. Hein. On peut, voilà. Mais en moyenne, une marque de lingerie telle Cobad ou Lee Charmel, c'est 25-28 minutes. Nous, en moyenne, sur un soutien-gorge indiscret, c'est une heure de travail. Tout simplement parce qu'on ne fait pas 100 pièces dans la même référence, dans la même couleur, dans la même collection. D'un coup, on travaille à la commande. Hein. Une dame qui a un grand tour, qui est toujours serré dans ses soutiens-gorge, bien nous, on va pouvoir lui rallonger les dos. Parfois, on a des demandes pour un soutien-gorge d'être allongé de 12 cm ou voire 20 cm de chaque côté, alors que la personne est en profondeur B, donc ce n'est pas énormissime, mais simplement, elle a un tour très important. Et ça, c'est des choses qu'on peut adapter. Des bretelles, souvent, on a des personnes qui disent « Ah, mais ma bretelle, moi, elle est toujours rendue sur mon bras. » Mais oui, c'est parce qu'on a les épaules un petit peu penchées. Donc là, il suffit en fait de repositionner les bretelles plus vers le milieu du dos et les bretelles, elles ne bougent plus. Voilà. et puis, il y a plein de formes de soutien-gorge, il y a plein de formes de poitrine. Donc, chaque poitrine est différente. Et un soutien, on peut avoir trois femmes en 90B, mais avoir trois formes de poitrine différentes et une forme de soutien-gorge qui va aller à une autre qui va aller à l'autre. Et le même soutien-gorge n'ira pas aux trois personnes, même si elles sont dans la même taille. Donc voilà, nous, c'est vraiment ce concept, cet accompagnement, en fait. C'est pas vendre un produit juste pour vendre, hein, c'est vraiment conseiller un produit pour que la femme trouve un bien-être dans ce produit et qu'elle l'oublie. Souvent, on nous dit « Ouais, mais moi, je porte pas d'armature parce que ça fait mal. » Mais non, une armature qui fait mal, c'est simplement qu'elle n'est pas dans la bonne taille. Soit elle est trop petite, soit elle est trop grande. Voilà. Mais si l'armature est dans la bonne taille, tout le monde peut porter un soutien-gorge avec armature. Bon, je pourrais en parler des heures, en fait. Hein. Sinon, un prix de revient d'un soutien-gorge, c'est environ 50%, 50% du prix, c'est 50% matière et 50% main-d'œuvre. Donc voilà. Facebook, tout à l'heure on a parlé de Facebook, j'espère que vous êtes tous allés liker notre page Facebook, sinon vous allez tous être punis. Hein. Mais après, les réseaux sociaux, oui, aujourd'hui c'est primordial pour se faire connaître. Hein. Alors nous, on manque énormément de notoriété. C'est vrai qu'on bosse beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. On a pris une personne qui travaille aujourd'hui une journée par semaine pour nous que sur les réseaux sociaux parce que voilà, c'est indispensable. Et tout ce qui est blogueuse, tout ça, c'est vraiment une façon de se faire connaître. Et les médias. Les médias, nous, voilà, on les sollicite régulièrement avec des dossiers de presse. Quand on avait lancé les prothèses mammaires, bien, c'est quelque chose sur lesquels on les a sollicités parce que vraiment, on a besoin d'eux pour se faire connaître. Nous, honnêtement, si on n'avait pas eu les médias au début de cette aventure derrière nous, on serait mort aujourd'hui. Hein. Il y a bien longtemps. Ouais. Pardon ? Non, ils ne sont pas là. Ils nous ont oubliés. Le conseil, je vous en ai parlé. Je m'étais fait juste un petit mémo. Bon, est-ce que vous avez des questions ?
Peut-être dire que vous êtes entreprise du patrimoine vivant, donc c'est un réseau.
Oui, les labels, oui, j'en ai parlé à table, et là, j'en ai pas parlé.
Made in France aussi.
Voilà, alors les labels, en effet, labellisé EPV, hein, entreprise du patrimoine vivant, et on a le label aussi du Poitou depuis peu. Alors après, moi je suis toujours un peu en guéguerre avec ces labels, hein, comme je vous le disais à table. Ce que je reproche aujourd'hui, c'est qu'un label, des labels Made in France, il y en a plein. D'ailleurs, honnêtement, aujourd'hui, on ne sait plus vers quel label aller parce qu'ils sont multiples. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas un seul label aujourd'hui qui différencie l'entreprise qui fabrique à 100% en France et celle qui ne fabrique peut-être que 20 ou 30% en France. Et ça, je trouve ça vraiment déplorable, parce qu'une entreprise qui fabrique 100% en France, on a toutes les charges françaises, toutes les problématiques. Hein, je veux dire, rien qu'au niveau des salariés, aujourd'hui en France, c'est quand même compliqué. Hein, le salarié se sait protéger, donc le moindre truc, c'est les prud'hommes, c'est l'arrêt de travail, c'est voilà, vous construisez votre entreprise, vous faites avancer votre entreprise avec toutes ces contraintes françaises et à 100%. Et celui qui fabrique à 30%, il peut avoir le même label que vous, sauf que lui, il fait fabriquer à Tataouine, que le produit ne va pas lui revenir à 50% du prix en matière et en main-d'œuvre. L'autre jour, j'ai vu un reportage. Le prix de revient du produit était de 2,60 €. Il était vendu à 26 €. Nous, aujourd'hui, sur un soutien-gorge, on ne marge même pas à 1 € par pièce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la cliente elle nous achète un seul soutien-gorge, on ne gagne même pas 1 € par soutien-gorge. Par contre, si elle achète un slip et un soutien-gorge, c'est sur le slip qu'on marge, qu'on rattrape le plus, parce qu'un slip a un temps de fabrication plus infime et il n'y a pas la personnalisation. Alors que... d'où je viens, hein, j'étais au bureau des méthodes et donc sur tout ce qui était calcul et prix de revient, on margeait à 70% minimum avec une fabrication à 60% en Tunisie. Aujourd'hui, ils sont sur 60% en Asie, donc imaginez bien la marge sur le produit, c'est plus 70%, c'est 80% minimum. Aujourd'hui, c'est difficile hein, de faire face justement à cette fabrication étrangère, hein, parce que aujourd'hui, on se dit... oui, on se bat pour une main d'œuvre française, pour notre concept. Mais si demain on allait en Tunisie, la société irait beaucoup mieux parce qu'en effet, la marge serait beaucoup plus importante. Mais c'est pas ça qu'on veut nous aujourd'hui. Hein, c'est garder vraiment ce savoir-faire, garder ses valeurs et se battre pour ça. Même si, on galère, c'est compliqué, c'est une trésorerie super tendue. Mais voilà, on se bat pour ça et on veut y arriver pour ça. Et pour ça, bien, plus on aura de clientes, plus on aura d'hôtesses, plus on aura de vendeuses, plus on devient, on aura de l'importance. Et plus chiffre d'affaires grandit et plus ça devient rentable. Et voilà, mais c'est un vrai combat. Mais c'est le combat dans lequel on s'est engagé depuis 7 ans. Voilà. Alors, les informations sur la page Facebook, il y a des recrutements qui sont lancés très régulièrement. Il y a l'espace contact. Sur le site également, il y a plein de vidéos qui sont en ligne. Il y a l'espace contact également. Donc là, il suffit de renseigner en fait le contact ou d'appeler directement d'ailleurs la manufacture. Hein, sur la page Facebook, il y a le numéro. Didier se fait un plaisir de donner déjà les premiers renseignements par rapport aux produits, parce que la personne qui nous appelle n'a pas forcément encore découvert les produits indiscrets. Et ensuite, soit il y a une vendeuse qui n'est pas trop loin, on met la vendeuse en relation avec la personne qui souhaite avoir des renseignements et découvrir la lingerie. Et après, elle signe chez nous, il y a un accompagnement, formation. Et je pense qu'avant tout, il faut être aussi passionné du produit pour se lancer dans le métier et être à l'aise aussi avec le produit, parce que c'est un produit intime. Donc c'est sûr que ça ne se vend pas comme une boîte. Hein.
Une question, mais je laisse la parole ensuite, tout de suite après à Jean-Marc, vous aurez le temps d'y réfléchir. Vous faites partie d'un club d'entreprise territoriale, mais vous répondrez après.
Oui, moi, ce qui m'intéressait, c'est par rapport à Obad, l'image que vous développez, donc l'indiscrète, c'est la marque.
Lingerie indiscrète, oui.
C'est la lingerie. Est-ce qu'il y a encore une connotation avec Obad ou pas ? Est-ce que Obad autorise encore que vous ayez une signature en disant on est des ex-Obad ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Et nous, oui, là-dessus, il n'y a pas eu de soucis. En fait, quand on a été licenciés, ils avaient une obligation de revitalisation du bassin d'emploi. Donc, soit ils versaient à la région un petit chèque, ou soit ils nous aidaient en fait, dans notre projet. Ils nous ont cédé toute une partie du matériel en fait, pour nous lancer. Donc ça a été vraiment un super levier pour nous, parce que ça s'est évalué à peu près à 120 000, 150 000 euros de matériel. Hein, donc, on n'a pas eu à acheter. Ils ne nous ont jamais mis de barrière. Après, bien sûr, on avait une condition de ne pas les attaquer au Freedom derrière. C'était la seule condition. Mais voilà, ça, on a joué le jeu. Ils ne nous ont jamais freinés dans notre projet. Après, Exobat, ça fait partie de notre parcours professionnel. Donc, c'est notre histoire, c'est notre métier. Les gens le savent. Après, sur le site, ce n'est pas écrit Exobad. Voilà, on ne l'écrit pas. Mais ça fait partie de notre parcours professionnel. Donc,
Et vous n'aviez pas pensé à être une sous-marque ?
Sous-marque d'Obad ?
Oui.
Ce n'était pas leur objectif ?
Non,
ce n'était pas leur objectif.
Non, parce que l'intérêt, quand même, c'est... Aujourd'hui, pour développer l'indiscrète, il faut lui donner des moyens.
La notoriété.
Le moyen de notoriété, c'est qu'effectivement, vous êtes des ex-Obad. Mm. Donc ça, c'est parlant. Quand on parle aux gens et qu'on leur
mais
dit...
On a le droit de dire ex-Obad, hein, et on n'a pas de limite.
D'accord.
Ouais.
Non, mais il faut en profiter alors.
On en profite un peu, oui. Partout où on peut glisser, on glisse, hein, c'est clair. Hein, voilà, Obad, c'est la marque de lingerie qui a 80% de notoriété dans le monde. Hein, donc... oui, forcément qu'on en profite de dire qu'on sort de chez Obad. Et puis, ça fait partie de notre carte professionnelle. Hein. Même si le licenciement a été dur, de toute façon, dans chaque expérience, on en sort du positif. Ça a été, enfin, je veux dire, moi, aujourd'hui, de toute façon, je ne serais pas à la direction de la lingerie indiscrète si je n'avais certainement pas eu ce parcours aussi au sein de la société Obad, comme j'ai démarré chez Simone Perel. Enfin, voilà, un parcours. Après, on se le provoque aussi. Il faut savoir se le provoquer. Et puis, le facteur chance aussi, il fait. Mais non, on en joue du ex-Obad, bien sûr. Bien sûr. Et les médias aussi. De toute façon, c'est par rapport à ça qu'ils nous ont suivis. Si on n'était pas sorti de chez Obad et qu'on n'avait pas connu notre licenciement, ils ne nous auraient pas suivis dans le lancement de cette marque, hein, ça c'est sûr. Ouais.
Club d'entreprise territoriale ou pas ?
Oui, alors en tant que femme entrepreneur au féminin, moi, de la Vienne, c'est une entreprise donc, de chef d'entreprise, mais de cadre, voilà, c'est ouvert à toutes les femmes. On est 110 adhérentes aujourd'hui, très, très dynamique, je pense, au niveau de la Vienne. Voilà, on est un bon groupe de femmes. Après, on a une soirée généralement par mois avec des thématiques très différentes d'une fois à l'autre. C'est un bon moment de détente, donc ça fait du bien aussi parfois en tant que chef d'entreprise d'avoir des moments de détente. Donc c'est un moment de rencontre, d'échange, de partage, et puis ça permet aussi de se rendre compte que dans chaque métier, eh bien, en fait, on retrouve les mêmes problématiques, hein, en tant que chef d'entreprise ou de cadre ou de poste à responsabilité. Donc ça fait aussi du bien de se dire je suis pas seule avec cette problématique et d'échanger, de partager. Alors moi, j'aime beaucoup partager parce que je trouve que dans le partage, on apprend beaucoup. On en sort toujours plus fort. Et même si on ne prend pas toutes les idées qui ont été transmises, eh bien une idée, voilà, comme tout à l'heure, voilà, ça fait réfléchir et ça, on se dit, tiens, ouais, c'est vrai que ça, on n'y a pas pensé. Et ça peut être aussi un moyen de grandir et de se faire connaître. Hein.
Ok. Merci. Une militante.
Non, mais pour avoir participé à différentes soirées, c'est vrai que c'est une force de ce réseau-là. C'est vrai qu'au-delà du côté convivial, de partage, de valeurs aussi, parce qu'on se retrouve tout autour de ces valeurs, mais c'est aussi faire connaître son activité. Et puis aussi, souvent, il y a quand même beaucoup de projets qui se montent entre l'association, et puis sur un défilé où il y a besoin d'un photographe, hop, il y a quelqu'un d'entrepreneur féminin qui fait des photos, etc. Donc c'est aussi faire appel, faire marcher le réseau, et ça crée du lien, du dynamisme, et c'est super important, quoi.
Et ça crée du partenariat. Nous, par exemple, un gérant discret, et bien dans l'association là, il y a une femme qui fait tout ce qui est accessoires capillaires, donc par exemple les perruques, et c'est vrai que dans le coup elle s'est mise en relation avec une de nos conseillères, parce que forcément elle rencontre des personnes qui sont sous traitement traitement, qui ont eu un cancer, et dans le coup, qui ont un besoin aussi de soutien-gorge. Et voilà, et c'est vrai que bah, ça permet voilà, de se faire connaître et de développer aussi son réseau.
Bonjour.
Bonjour.
Au-delà de l'aspect entreprendre au féminin et puis le côté militantisme, mais pour y a aussi un mouvement de société plus global qui est en marche. Alors on pourrait plaisanter un petit peu autour de l'idée d'écriture inclusive, notamment en rapprochant au nom de votre marque et de votre société, puisque vous dites que vous faites aussi de la lingerie masculine. Mais il y a aussi tout le mouvement de libération de la femme, de la parole de la femme, etc. Est-ce que ce sont des choses que vous pensez intégrer d'une façon ou d'une autre dans votre politique commerciale ou pas du tout ?
Je dirais que pour l'instant, c'est pas trop penché sur le sujet, mais on n'a pas trop réfléchi pour le moment, je dirais. Après, on ne fait pas partie... Alors, moi, je suis une femme, donc je fais partie d'Entrepreneurs Féminins, mais on fait partie du groupement des entreprises de Chauvigny. Enfin, voilà, on est acteur dans d'autres futurs exports. On est aussi acteur dans d'autres clubs de la Vienne. Et ça, c'est vraiment... Enfin, et je vois le futur export. C'est vrai que quand on y participe, moi, j'ai déjà assisté à des visites d'entreprises. Et je trouve qu'on s'enrichit vraiment en visitant les entreprises parce que déjà, on les découvre. Enfin, moi, j'ai visité à Dissé Colonial, là, le thé. Je ne savais même pas qu'il y avait ça à Dissé. Enfin, et même les bottes Aigle. Enfin, alors là, j'ai trouvé que c'était une entreprise mais fabuleuse. Et que, honnêtement, enfin, moi, j'admire les gens qui travaillent dans cette société parce que c'est quand même des postes difficiles hein, entre l'odeur, le gestuel. Et vraiment, enfin, on sent que les gens aiment leur métier. Et enfin, moi, j'ai trouvé ça admirable et je pousse vraiment les gens à aller visiter cette entreprise parce que vraiment, c'est un très, très beau savoir-faire.
C'est intéressant qu'on ait mis le débat sur ce terrain des réseaux économiques parce qu'en fait, on avait fait venir une représentante de Vendée où tous les réseaux, alors CJD, CGPME, MEDEF, Entreprendre Féminin, se sont regroupés et ont fait une université des entrepreneurs. C'est-à-dire tous les ans, il y a une université qui réfléchit sur les perspectives d'avenir. C'est le seul département en France qui a ce type d'initiative aussi conjuguée. Parce que les réseaux, c'est vrai que c'est intéressant, mais en même temps, ça peut aussi tirailler un peu d'un endroit à l'autre. Et ce qui est important à un moment donné, c'est qu'il faut se regrouper.
Exactement, voilà. Oui.
Bien, merci en tout cas, mais si on peut continuer le débat ensuite, merci de votre présence. Et donc je vais appeler Séverine Poujoie, qui est inspectrice de l'éducation nationale. Et là, peut-être, ce qui est intéressant, parce qu'on ne mesure pas bien, c'est peut-être les forces et faiblesses du territoire à travers, justement, les établissements de formation qui sont consacrés à la mode. Parce que finalement, est-ce que la mode, c'est une filière industrielle pour notre région, pour notre territoire ? Est-ce que c'est un enjeu ?
Donc lors du déjeuner. Là, vous m'entendez ? Ah, faut que je parle fort. Voilà. Bon. Les évolutions du métier a aussi eu un impact fort sur nos formations depuis ces dernières années. Donc on a connu en 2009 une vague de changements de diplômes et avec la disparition de certaines entreprises, aussi la disparition du coup de diplômes. Et notamment, puisque je vais faire le lien avec l'entreprise Indiscrète, il y a quelques années, il existait un CAP lingerie corsetterie. Aujourd'hui, il n'existe plus. Et aujourd'hui, il est intégré dans une formation plus généraliste dans laquelle on va nous dire qu'il va falloir faire une petite coloration locale. Et donc bah là, aujourd'hui, on m'a demandé donc de vous présenter l'offre de formation sur le territoire charentais. Je dirais même Nouvelle-Aquitaine, pardon. Et je pense qu'il faut quand même passer avant par une petite présentation générale et regarder un petit peu où les formations dans les métiers de la mode se situent. Et vous allez voir que c'est un petit peu complexe parce qu'on intervient sur deux champs, l'industriel et les métiers d'art. Et puis en même temps, vous verrez aussi toute cette disparition de filières et de savoir-faire. Donc il y a deux grands domaines professionnels des métiers de la mode et du luxe. Donc les commissions professionnelles consultatives de l'éducation nationale sont des instances placées auprès du ministère de l'éducation nationale où siègent des employeurs et des salariés, des pouvoirs publics, des personnalités qualifiées. Et c'est eux qui vont formuler des avis donc, sur les diplômes du CAP jusqu'au BTS. Cette commission, donc il y en a 14, et les métiers de la mode et du luxe vont être dans deux commissions, vont se retrouver dans deux commissions, les métiers de la mode et industrie connexe, et la 13e qui est l'art appliqué. Donc là déjà on voit qu'il va y avoir des métiers, des diplômes qui vont être dans deux grands domaines différents. Donc la filière, elle est en train de se rénover, hein, puisque les diplômes changent et on a regroupé. Et comme la montre la diapo que vous avez devant vous, donc la filière des métiers de la mode et des industries connexes, alors on voit que les CAP se sont réduits depuis une dizaine d'années et vont faire des liens avec le bac pro et le BTS. Donc là, on a une logique de filière qui s'installe et cette logique de filière, on essaye de la retrouver dans nos offres de formation au niveau du territoire. Donc au jour d'aujourd'hui, en niveau 5, il nous reste quelques CAP. Donc le métier de la blanchisserie qui va donner en bac pro le métier du pressing et de la blanchisserie. Il n'y aura pas de poursuite au niveau BTS. Ensuite, on va avoir les métiers de la mode vêtements flous, vêtements tailleur, donc là qui a réuni le tailleur homme et le tailleur dame, le vêtement de peau et tout ça va alimenter le métier de la mode vêtements. Donc là, vous voyez qu'il n'y a plus de spécialité, c'est intégré. Et enfin, un BTS, métier de la mode vêtements. On retrouve une spécificité, donc un CAP professionnel aussi, le métier de la mode du chapelier modiste. Hein. Et là, il n'y aura pas de poursuite d'études. Donc après, ils devront reprendre une spécialité vêtements. La fourrure, les cordonniers bottiers, cordonnerie multiservice, chaussures et maroquinerie qui forment un groupe qu'on va retrouver ensuite après jusqu'au niveau BTS, BTS, métier de la mode, chaussures et maroquinerie. Ensuite, on va avoir un petit peu à part d'autres spécialités qui sont la sellerie générale et le sellier harnacheur. Et là, il n'y aura plus vraiment de poursuite d'études. Ensuite, on va aller sur un BTS, mais qui est plus sur le matériau. On retrouve encore quelques petites filières spécificités, donc les mentions complémentaires qui sont des diplômes en un an. Donc l'essayage, la retouche et la vente et le piquage d'articles chaussons. Sur la deuxième filière, donc les métiers d'art, hein, donc là c'est la CPC d'art appliqué. Elle s'est réorganisée et la rénovation démarre cette année, rénovation 2018. Donc comment ça se passe une rénovation? On ferme au fur et à mesure certains diplômes et on réouvre d'autres diplômes avec souvent des appellations différentes. Là, on voit que dans la CPC de l'art appliqué, donc c'est vraiment les métiers d'art. On va aller sur l'innovation, la création. Alors au niveau CAP, vous voyez bien, à chaque fois, il y a des filières. Il y a une logique de filière. Donc, on retrouve au niveau un bac technologique qu'on appelle STI2A, qui est presque dans toutes les académies, qui prend les spécialités design et des arts appliqués. Et ça va donner donc deux BTS avec des options différentes, donc une option mode et une option textile, matériaux de surface. Donc, on sépare le tissu et puis le vêtement. Ensuite, on va regrouper tous les métiers autour de costumiers de théâtre. Les métiers de l'art et du bois, donc les métiers du spectacle, hein, les métiers de l'art et du bois, donc tout ce qui est tapissier et tapissière d'ameublement, donc soit en décoration, soit en siège. Et ça va nous amener jusqu'au DMH, donc jusqu'à un niveau 3. Et art, textile et mode, où là on va retrouver la dentelle, des CAP dentelle et le CAP broderie. et qui va nous amener jusqu'à un diplôme plus généraliste qui va s'appeler le DMA, textile, céramique, option, art et textile. Alors tout ça, oui. C'est la même famille, donc la seconde est générale, et ensuite il se spécialise en première. Ça fait partie de la réforme. Donc avant, c'était l'ancien bac que vous avez pu connaître, qui s'appelait le bac F12, qui s'appelait le bac art appliqué, où on rentrait dès la seconde. Là, aujourd'hui, toutes les secondes rentrent et font un choix, et ensuite, ce n'est qu'à partir de la première, donc ils ne se spécialisent plus. La STI2A, il n'y en a pas partout, c'est une filière relativement demandée et elle amène après à des BTS dans le domaine du design, du graphisme, voilà, elle ouvre ce champ. Alors là, on va voir une distance entre ce qu'a prévu les commissions professionnelles et finalement, les parcours. Et donc là, je cite le site de l'ONICEP. Donc l'ONICEP, c'est là où tous les parents et tous les enfants vont chercher l'information. Alors avant, on a vu comment on créait les diplômes et finalement, la logique de filière qui se mettait en place. Hein, c'est assez long à réformer, puisque ce sont les entreprises qui déterminent les besoins. Et ensuite, il y a un travail avec l'éducation nationale et les enseignants pour écrire ces référentiels. Là, on va être sur le parcours finalement d'un étudiant et de faire ses choix. Alors le premier, donc l'ONICEP nous donne quatre parcours de formation possibles. Alors là, je vous avais vu qu'il y avait deux CPC, donc les métiers d'art et puis l'industriel, donc on faisait une distinction. Et là, on nous redonne quatre distinctions, la filière art appliqué, la filière artisanat d'art, la filière tertiaire et la filière industrielle. Alors tout d'abord, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la filière en art appliqué, elle est rénovée cette année. Donc on voit une disparition de BTS qui vont être remplacés par un diplôme national des métiers d'art et du design, le DNMAD, qui va avoir, elle, une logique sur 3 ans. Donc on se met sur les directives de l'Europe et on ne s'arrête plus à un bac plus 2 et on intègre maintenant de plus en plus la licence. Voilà. Voilà, exactement. Donc du coup, on est en train de rénover nos diplômes au fur et à mesure. Voilà. Donc là, on commence simplement à partir de la seconde générale et technologique, et ensuite on va pouvoir s'orienter dans un parcours dans la mode, mais d'un côté plus création et artistique. Le parcours, donc toujours formation mode et luxe, va trouver sa place dans la filière artisanat d'art. Alors là, on va retrouver donc tous nos CAP, et les CAP ne débouchent pas forcément à une logique de filière. Ils vont se réunir. Donc on a des CAP, on est sur des savoir-faire traditionnels pour certains, artisanaux. Et puis pour d'autres, on va avoir déjà un peu d'industriel qui se met en place. Mais tous vont converger si on veut continuer forcément à de l'industriel. Je vais me lever un petit peu pour vous montrer. Alors ici... Et après, on regardera au niveau du territoire ce que ça donne dans l'Académie Nouvelle-Aquitaine, puisque là, on a mis en place un campus de métier. Et la logique, c'est d'essayer de voir sur notre territoire les spécialisations que nous avons. Et cette logique, elle se fait en regardant la carte au niveau national, en fonction des entreprises et où elles sont implantées, puisque l'objectif de l'éducation nationale, c'est de répondre aux besoins des entreprises. Une autre logique, les élèves que nous formons, ils ont 15 ans. À 15 ans, les élèves, ils ne sont pas mobiles. Donc, il faut que nos formations soient adaptées aux besoins du territoire. Ce qui n'est pas facile à faire, parce qu'une entreprise qui disparaît, pour nous, une formation, ça met beaucoup plus de temps à disparaître. Et puis, en plus, on ne peut pas la faire disparaître au niveau national. Donc, la carte des formations, qui a été reprise maintenant par la région, et nous aussi, nous y participons, bien sûr, est complexe à mettre en place et doit avoir une logique au regard aussi des besoins professionnels. Donc là, on voit qu'il nous reste, le cœur va être notre fameux bac pro métier de la mode, vêtements. le bac pro ici, métier du cuir, qui va regrouper la maroquinerie et la chaussure, et qui vont venir alimenter ici les BTS. Donc là, on est bien sur la filière artisanat d'art, qui va réunir une partie de la filière industrielle que j'ai présentée tout à l'heure, parce que je vous ai dit qu'il y avait deux CPC. Donc juste avant, j'ai présenté les métiers d'art, et là, la filière art appliqué, et là, la filière que l'ONICEP a appelée artisanat d'art, qui est entre les deux. Alors, on va y venir. Ouais, je vais vous la présenter. Elle va basculer. Pour avoir la licence, on va basculer dans l'industriel. C'est-à-dire que si on veut après rester dans le domaine artistique, on va être sur la licence de tout à l'heure, art appliqué. Ça fait partie justement de la grosse réforme qui commence à partir de cette année dans les métiers d'art, c'est-à-dire d'élever le niveau, de reconnaître, parce que le niveau, il y était, mais il n'y avait pas ces fameuses licences, et du coup, au niveau européen, c'était pas clair. Donc ça a entièrement été rénové, hein, ça a été un gros chantier. Nous, ici, on va être un petit peu entre deux. C'est-à-dire que du coup, c'est pour ça que les noms changent. On appelle ça la filière artisanat, donc on va être sur des niveaux pas plus que 5. Et puis alors après, du coup, quand on veut aller sur un niveau bac plus 3, on se retrouve à basculer dans les techniques industrielles. Alors, au niveau des CAP, il va nous rester quand même des gros champs. Alors, la technique, donc là, j'ai parlé de la filière industrielle. On va avoir ici un CAP métier de la mode vêtements, donc là où on a regroupé plusieurs autres CAP. On va retrouver ici, alors du coup, je ne vois plus, parce que c'est flou pour moi. Alors, juste à côté. Mieux, donc je vais rester là. Donc on va retrouver donc le CAP métier de la mode vêtements de peau, le vêtement tailleur, la fourrure et la chapellerie, les chapeaux. Ici on a notre filière qui dépend des métiers d'art, qui est la broderie, et donc là vous voyez qu'elle va emmener jusqu'au DMA. Donc ici je vous ai mis la fourrure, le tailleur, les vêtements de peau, le vêtement. Et l'autre côté, on va retrouver notre pôle qui va alimenter notre bac pro, le CAP maroquinerie, le CAP cordonnier bottier, le cordonnier multiservice. Et là, deux CAP un petit peu liés, mais à part, qui va avoir du mal à reprendre un cursus industriel, qui est le CAP sellerie générale et le CAP sellier harnacheur. On va retrouver ensuite en poursuite d'études possibles, autres que le bac pro, un BP, cordonnier bottier, et des mentions complémentaires. Donc là, vous voyez que tous ces CAP-là ne peuvent pas trouver leur place en poursuite d'études. Ils sont donc destinés à aller dans la voie active. Les métiers du spectacle. Non, ils étaient juste avant. Enfin, après. Voilà, costumier. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ensuite, on va retrouver la filière industrielle et c'est là où on va retrouver nos fameuses licences. Donc, on retrouve ici notre bac pro, notre BTS. Et là, donc, l'offre que je vous ai mise de la Nouvelle-Aquitaine, donc elle est toute nouvelle, c'est la licence professionnelle commercialisation des produits haut de gamme. Et là, la commercialisation des produits haut de gamme, et je sais qu'il y a des personnes dans la classe qui ont fait une filière un peu comme ça, et bien ça nous amène dans le champ du tertiaire. Donc, voyez un petit peu les métiers de la mode, tout ce que ça implique comme changement de domaine. C'est complexe quand même. Et c'est complexe aussi à réformer. Voilà, donc toutes ces données-là, ce sont les fameuses données que les enfants trouvent sur l'ONICEF et les parents. Hein, ce sont vraiment les tableaux qui sont proposés. Et on voit que ce n'est pas évident pour trouver une formation et pour savoir au bout du bout ce qu'on peut faire. Alors on commence par souvent un CAP, puis après le CAP, la difficulté, on le sait tous, et vous l'avez vu sur le schéma de tout à l'heure, c'est que c'est impossible pour eux de réintégrer un bac pro et de continuer leurs études. Il n'y a pas de place. Et c'est flagrant sur le schéma. Donc on voit que tous les élèves et toutes ces spécialités-là s'arrêtent à 2 ans. Le public accueilli en CAP, j'en ai parlé un peu à table, il est particulier. Le CAP, les CAP sont prioritaires aux élèves qui sont issus de l'école inclusive. Voilà. Donc ça génère aussi des complexités parce que dans certains des métiers, je pense par exemple au CAP cordonnier-bottier que nous avons dans l'académie, c'est un travail manuel qui nécessite physiquement d'avoir les bonnes aptitudes. Voilà. Ils ont tous des contraintes. C'est lié général que nous avons également dans l'académie, c'est pareil, c'est un travail difficile sur machine et donc ça nécessite des aptitudes particulières. Donc pour continuer cette présentation, donc il nous reste encore, c'est toujours l'ONICEP qui le présente lors de l'orientation, donc on a la filière tertiaire qu'on va aller regarder un petit peu, où là on va retrouver notre fameuse licence ici, métier de la mode, licence pro. Voilà, donc on est parti de peut-être un souhait de fabriquer des produits, et puis on termine par la partie plus commerciale. Est-ce que vous avez des questions peut-être ? Non, je continue, oui. Il y a des élèves qui vont rentrer sur ce choix et qui peuvent arriver à réintégrer du fil par leurs études à se destiner à une licence professionnelle, mais plus commerciale, comme l'a proposé la Nouvelle-Aquitaine.
Question posée par rapport à la chambre de commerce qu'on a fréquentée pendant pas mal d'années, notamment pour rechercher des pépites de personnes qui pourraient s'affilier à un secteur de la restauration de vêtements, parce que là, elle est totalement absente. Là, on voit très nettement que la restauration vestimentaire ne trouve pas sa place, là, en l'occurrence. Alors, moi, la première question que je voulais poser, c'était sur le taux de réussite, mais le taux d'exercice de la profession. Au terme d'un CAP, au terme d'un BTS, est-ce qu'il y a 25%, 30%, 40%, 50%, alors, 60% qui exercent le métier qui correspond à leur diplôme ?
Non, très peu. C'est une catastrophe. Parce qu'il y a très peu d'emplois.
Comment ça se fait ? On est complètement à côté de la plaque à cause de ça. Moi, je me rappelle des taux qui étaient de l'ordre de 10-12%, quoi. Là, où on en est aujourd'hui.
On va regarder, je vais vous présenter après les cartes et on va voir un petit peu sur le territoire où se répartissent les effectifs et les formations. Et là, cette logique de filière, où ça se situe ? Il y a des zones où il y a plus de CAP, plus de bac pro, il y a des zones où il y a tout, donc les élèves peuvent faire leur parcours complet, puis des autres où ils vont être arrêtés, puis il faut qu'ils changent d'académie, qu'ils changent de territoire. Et puis en même temps, comme on l'a dit, l'emploi, les entreprises ferment, donc l'emploi n'est plus en France, et les formations ferment aussi. Donc il y a un choix complexe et stratégique de savoir où implanter les établissements, les filières, pour répondre aux besoins et pour que les jeunes trouvent un emploi, parce que l'objectif c'est de répondre au départ à la retraite, mais pas d'avoir trop de jeunes qui restent sans travail, quoi.
Alors, en l'espace de 30 ans en fait, de parcours, nous, on a bien senti, en fait, de toute façon, il y avait aussi plein de jeunes qui allaient au bout de leur CAP, de leur BTS, mais qui abandonnaient leur projet.
Oui.
Alors, c'était des fautes d'orientation, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment que le fait qu'il n'y ait pas d'emploi qui les amène à choisir un autre métier ? À l'époque, c'était franchement le jeune, on l'avait mis là, puis au bout des. Il dit non, finalement, c'est peut-être pas de la boulangerie que je vais faire, mais de la mécanique. C'était complètement désorienté.
Alors maintenant, il y a un petit peu de tout ça. Donc on travaille beaucoup sur le parcours à venir avec les jeunes. On essaye de ne pas les mettre par défaut, donc d'où l'ajustement. Le travail avec les entreprises, les régions, c'est un vrai questionnement. Parce qu'on fait un pari, nous, sur là, au minimum de 3 ans de formation. Donc, on ne peut pas fournir des élèves tout de suite. On travaille aussi beaucoup avec la formation continue. C'est-à-dire qu'il y a parfois des jeunes qui suivent un parcours. Et puis, à un moment donné, on va proposer une formation en 1 an. Donc, ça, c'est avec nos partenariats avec la région, leurs besoins. Et du coup, on va proposer, par exemple, un CAP en 1 an. Alors là, sur cette diapo-là, c'est un petit peu l'idée qu'a eue l'Académie de Poitiers, puisque je vais vous le présenter, enfin je voulais vous le présenter tout à l'heure, mais on va en parler maintenant. La stratégie qu'on a prise, nous, pour cette année, ça a été de proposer des CAP seulement en 1 an et de les proposer après un parcours bac pro. Et du coup, on reste bien sur garder des savoir-faire et des métiers qui sont spécifiques, des techniques qui sont spécifiques, parce qu'on ne peut pas les perdre, ces savoir-faire, comme par exemple la sellerie. Et la sellerie va être proposée en 1 an. Du coup, elle est ouverte à tout public, et peut-être y compris à des demandeurs d'emploi. Et ils ne vont faire que la partie professionnelle. Voilà. Alors là, je voulais vous présenter donc la formation et par rapport aux effectifs. Hein. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, en 2017, ce qui reste en France. Alors on a pris des secteurs avec la personne qui a fait la carte, donc c'est la statisticienne du rectorat. Et ici, j'ai mis à peu près les filières qui avaient été ciblées pour former ce champ habillement. Alors, vous avez en haut les niveaux 3 en plus foncé, les niveaux 4 en plus clair, les niveaux 5, et les régions. Donc, on voit en France, globalement, on couvre le territoire national. Après, il y a des choses un petit peu particulières. Hein, par exemple, dans les îles, Mayotte, où il n'y a que des CAP. Voilà. La Réunion, on va trouver très, très peu de Bac plus 3. Mais ici, globalement, on peut dire que ça s'équilibre. Dijon, qui est un petit peu particulier, voilà, il n'y a plus du tout de CAP. Et puis pour notre région, où on peut voir qu'on avait très très peu de Bac plus 3 de proposer. Les formations donc, qui concernent tous les métiers du cuir et peau. Donc, alors là, on va voir un gros point au niveau de la région de Poitiers. Beaucoup de CAP, fabrication artisanale, des grandes entreprises comme on en a parlé à midi, Hermès, par exemple. On va retrouver ici à Bordeaux la même chose et pas de poursuite d'études. Proposer pour accéder à un niveau BTS. Donc ensuite, il faudra aller là, dans la région Rhône-Alpes. On va pouvoir se former à la maroquinerie, à la chaussure au niveau Bac plus 3. Pour ce qui concerne l'outre-mer, eh ben là, on n'en a plus du tout. Alors pourquoi je présente l'outre-mer ? Ben parce que, par exemple, les îles, Mayotte, La Réunion, sont proches de l'île Maurice. L'île Maurice et Madagascar sont des îles où il y a un gros centre de délocalisation, voilà, des produits. Et tout à l'heure, vous en parliez, parce que l'île Maurice, on a beaucoup délocalisé, notamment la lingerie là-bas. Et actuellement, ils sont en train de fermer et de changer de type d'industrie. Donc, ils ferment les ateliers, voilà, ils ferment les postes. Parce qu'ils ne peuvent plus produire les quantités, enfin c'est plus rentable pour eux, parce que les quantités demandées, nos consommations ont changé, nous ne consommons plus pareil. Et du coup, il y a un retour de petites fabrications, de besoins de petites fabrications. Et eux, pour eux, ça ne les intéresse pas. Eux, ils sont à 10 000 pièces. Du moment où on va à l'extérieur de l'Europe, ils demandent des quantités importantes. Ce qui a permis à des entreprises françaises, et je pense comme indiscrète, de proposer du coup des services comme le sur-mesure, des services aussi de petites séries, qui fait qu'on voit un retour et un regain, et pour nous peut-être aussi de reformer encore des personnes, de maintenir notre savoir-faire en France. Mais c'est encore à la marge, hein, c'est un tout nouveau, mais parce que ces lieux de délocalisation, pour eux, ce n'est pas rentable de produire à moins de 10 000 pièces ou même 5 000 pièces, c'est déjà pas intéressant. Donc, ils arrêtent les unités de production. Une unité de production à l'île Maurice, par exemple, les ateliers, c'est 5 000 personnes. Hein. Voilà, 5 000. Donc, et je précise qu'ils ont beaucoup de mal à trouver de la manœuvre. Donc, ils font venir des personnes d'Inde. Oui. Madagascar est en train de se développer, mais l'instabilité du pays fait qu'il n'arrive pas à maintenir, mais il y a toujours eu un potentiel professionnel pour la fabrication de vêtements, mais ils ont du mal à se maintenir dans le temps. L'île Maurice, notamment, délocalise la production maintenant à Madagascar. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes, la France délocalise à l'île Maurice et l'île Maurice va encore délocaliser à Madagascar parce qu'ils sont en train de fermer les unités de production. Mais voilà, pour en revenir quand même à nous, les formations, vous voyez qu'autour, dans les îles qui gravitent, ce n'est pas des formations qu'on a implantées puisqu'il n'y avait de toute façon, c'est trop proche et donc il n'y a pas d'activité. Donc tout ce qui concerne la tapisserie d'ameublement, donc là c'est peu, et ça s'arrête principalement au niveau bac. Voilà. Et là on va retrouver donc ceux qui vous intéressaient, les métiers d'art. et là on est vraiment sur une logique au niveau national. Donc ça s'est appauvri, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands besoins. Et donc, du coup, bah, les jeunes, pouvoir se former, ils sont obligés d'être mobiles. Et voilà. Et donc, voilà, vous voyez tout de suite le grand vivier, il va se retrouver ici. Un petit peu dans notre académie, au niveau de Bressuire, du lycée Saint-Joseph. Mais vous, vous êtes situé, et bah, vous n'avez plus rien. Voilà. Alors ça pose des problèmes, notamment pour les lieux de stage, puisque du coup il faut des élèves très mobiles dès l'âge de 15-16 ans pour aller se former. Donc voilà la situation en France des formations. Donc oui, j'en ai pas parlé, bon, c'est un petit peu à part, mais pour vous, ça intéresse. Alors ça a été un peu la mort du pressing, hein. Alors là ça a beaucoup fermé. Et voilà ce qui reste. Donc là, on est encore moins... C'est les moins qualifiés. Voilà. C'est un métier qui s'est perdu. Et plus industriel, oui, mais... Voilà, c'est le pressing. Mais en termes de formation, c'est de la formation en entreprise, plutôt en alternance. Et donc plus... beaucoup, oui, mais non. Sur le tas. Alors donc sur Poitiers, il nous en reste une. Donc on va aller regarder à peu près les formations là dans la Nouvelle-Aquitaine et sur Poitiers. Alors la Nouvelle-Aquitaine, elle a un gros pôle qui est au niveau de la Gironde, donc beaucoup de bacs pro, un BTS et là du coup une licence. Et puis un peu à Saint-Jean-de-Luz, par là. Voilà. Et après, ça va être sur l'académie. Donc, j'ai fait un zoom de Poitiers, où là, nous, on a réparti nos formations sur les différents départements. C'est à peu près équilibré. Donc, on a la partie Angoulême, où là, on est beaucoup sur le cuir, avec le lycée Jean Rostand. Donc, au niveau du lycée Jean Rostand, On a le CAP Maroquinerie, un partenariat assez fort avec l'entreprise Hermès, comme je l'avais expliqué à table. Un partenariat aussi en termes de formation, sur leurs exigences, qu'on reproduit aussi au sein de nos formations. On a le CAP, et c'est un des derniers vêtements de peau, puisqu'il n'y en reste plus que 3 sur tout le réseau national. Et on va avoir le bac pro vêtements. Voilà. Ensuite, on va avoir la partie, le LP. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser, j'en ai parlé à table, j'ai oublié de le redire. Et donc, le petit nouveau qu'on a ouvert à la rentrée, qui est le CAP cordonnier bottier. Voilà. Au niveau du LP, Gilles Jamin, Rochefort, pareil, un nouveau CAP qui s'est ouvert, mais cette fois-ci en un an, je l'ai dit tout à l'heure, donc Sellerie Générale, option voile, hein, un partenariat fort avec les entreprises locales. On va retrouver donc le bac pro et le CAP couture floue. La particularité du LP Gilles Jamin, c'est son CAP broderie, et la broderie au fil d'or qui est la spécialité locale. Voilà. Son DMA aussi. Ensuite, on va aller donc sur la blanchisserie là, qui se retrouve au niveau du secteur de Niort. Ensuite, on aura un lycée privé qui est le LPO de Saint-Joseph-de-Bressuire, où là, nous avons principalement la filière costumière de théâtre et puis le bac pro. Et puis le lycée Dolmen de Poitiers, où là, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on a fait un grand pari, donc c'est d'ouvrir le BTS. Il s'est ouvert à la rentrée, et sur ce BTS, nous avons un projet différent et innovateur. Nous avons mis en place une Fab Lab dans les métiers de la mode. Alors là, vous devriez voir également toutes nos capacités d'accueil, et vous allez voir que sur notre territoire, on a des formations, mais nos capacités d'accueil sont assez faibles. Alors au niveau du lycée Jean Rostand, cordonnier bottier, on peut accueillir 12 personnes, en maroquinerie 8. La particularité aussi, c'est qu'on le propose en apprentissage en un an. Et on a des personnes qui le demandent dans le cadre de reconversion aussi. On a le CAP vêtements de peau, 8 élèves. Les métiers de la mode, le CAP vêtements couture floue. Le bac pro métier de la mode, 12 personnes. Et le bac pro métier du cuir. Au niveau du lycée Gilles Jamin, donc Sellerie Générale, un an, il est proposé à 12. Le CAP Couture Floue, 12. Le CAP Art de la Broderie, 12. On a aussi des FCIL, donc c'est des formations sur un an art et mode, en niveau 5 et niveau 4. Et on va retrouver donc la poursuite en études sur l'art de la mode avec le BMA et le DMA à 12 et à 15. Ensuite, on aura donc le lycée Thomas Jeanmain sur Niort, où on a donc notre fameux CAP métier de la blanchisserie, et le lycée Saint-Joseph, hein, qui réunit le pôle vraiment spectacle, métier du spectacle, et puis le bac pro à 12 et 12. Donc, vous voyez, c'est toujours des petits effectifs. Et puis le lycée Dolmen, le bac pro qui, lui, est à 24 et qui est poursuivi après, pour l'instant, par un BTS. Donc vêtements à 12, puisqu'on vient d'ouvrir simplement cette année, on ne pouvait pas mettre une capacité plus importante. Est-ce que vous avez des questions ?
Allô, oui. Est-ce qu'il y a une corrélation avec les CFA et les chambres de métier là-dedans ?
Il n'y a pas de formation hormis en apprentissage là au niveau de Jean Rostand, on n'en a pas d'autres, c'est la seule.
D'accord.
C'est assez rare parce que c'est difficile de trouver des entreprises qui accueillent les élèves en stage, en alternance. Pardon. En stage, oui, dans le cas des PFMP, mais en alternance, on trouve très très peu de contrats. Et notre CAP maroquinerie est d'ailleurs même menacé, puisqu'on n'arrive pas à trouver des lieux d'accueil d'entreprises. Aussi parce qu'elles sont loin sur le territoire, et si les jeunes n'ont pas de voiture, ils ont des difficultés à s'y rendre. C'est aussi une difficulté. C'est que nos jeunes, ils ont moins de 18 ans souvent. Et voilà, du coup, ça pose problème. C'est pour ça que c'est très difficile de l'apprentissage dans la filière des métiers de la mode.
OK, merci beaucoup pour cette présentation et cet état des lieux, en quelque sorte. Donc, je vais appeler maintenant Marie-Hélène Lusseau a présenté sa démarche à Saint-Jouan de Thouars.
Comme tous mes collègues, je ne vais pas vous redire bonjour. Je m'appelle Marie-Hélène Lusseau. Je suis couturière à Saint-Jean de Thouars. Il y aura 6 ans en février 2018. Mon histoire professionnelle ressemble un peu à d'autres. J'ai travaillé une dizaine d'années dans l'univers de l'industrie de l'habillement, à différents postes, aussi bien en bureau d'études qu'en bureau méthode qu'en atelier. Comme beaucoup de mes collègues, dans les années juste avant 2000, j'ai été licenciée, puisque le travail est parti à l'étranger. J'ai ensuite enseigné et j'ai fait aussi de la formation professionnelle dans les entreprises qui restaient sur le secteur. Étant donné que ce n'était que des contrats, j'ai donc repensé ma carrière professionnelle et je suis devenue représentante en objet pédagogique pour les enfants en difficulté, jusque la dernière crise économique qui nous a traversés, puisque mes clients étaient les administrations avec des budgets et que les budgets se réduisant d'année en année, le chiffre d'affaires, il fallait que je le maintienne. Donc l'entreprise n'a pas souhaité agrandir mon secteur, donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour les quitter. Et du coup, mon amour pour la matière, le tissu, la fabrication est revenu au grand galop dans les bilans de compétences. Et j'ai eu l'opportunité de m'installer avec l'aide d'un magasin de robes de mariée qui avait été repris par une personne qui ne connaissait rien à la retouche. Donc ça m'a permis, moi, de me lancer tranquillement puisque j'avais un chiffre d'affaires assuré au moins pour l'année. Et du coup, je me suis formée, je me suis construit une clientèle à côté de particuliers pour compléter mon chiffre d'affaires. Voilà. Et aujourd'hui, ce magasin ayant disparu, donc j'ai repris l'activité, mais différemment. C'est-à-dire que je n'ai pas de magasin avec une vitrine. Le magasin, il est à côté de mon atelier. Et l'on vient à ma rencontre parce que l'on m'a vu sur des expos ou par oui-dire. Voilà. Donc je m'expose beaucoup, je suis quelqu'un qui aime ça. Et je suis très présente aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, j'ai un site, etc. L'an dernier, non, il y a 2 ans, l'un de mes clients donc, s'est marié et j'ai fait la robe de la mariée. Et le mari étant quelqu'un qui travaille dans l'est de la France, en Alsace, sur les marchés artisanaux alsaciens, il y a beaucoup de travail du bois. Et il avait acheté un nœud papillon en bois à l'époque. Et il m'avait demandé pourquoi moi j'avais pas ça ici. Du coup, j'ai fait une recherche et je me suis aperçue que c'était tout à fait dans mes capacités de réaliser cet accessoire de mode, puisque c'est un phénomène très, je pense qu'il va être très ponctuel, qui ne va pas durer dans le temps, mais qui a un engouement terrible en ce moment, surtout au niveau de la cérémonie. Donc je me suis dit qu'il était vraiment important que je l'aie moi aussi à proposer aux clients. Et dans mes connaissances, j'avais quelqu'un qui est un ébéniste et qui avait une bonne expérience des différents bois. Et je suis allée le rencontrer et lui dire, voilà, moi, je voudrais une forme comme celle-ci. Propose-moi des matières, propose-moi des choses, mais il faut que c'est cette forme de patron. Et après, moi, je me débrouille du reste. Donc voilà, la collection Les Petits Nœuds est née comme ça, tout simplement, de cette rencontre. Donc elle est basée sur de l'éco-conception, c'est-à-dire qu'on utilise nos restes de bois et nos restes de tissu. Et à partir de là, on crée un objet et un accessoire. Il est pour nous impossible de penser cette collection avec une vente en grand volume. Ce n'est pas du tout notre objectif. On veut rester absolument dans la créativité, dans la personnalisation. Et donc cette collection, elle évolue tous les jours, je dirais, même voire toutes les semaines, en fonction de ce que nous avons dans nos ateliers. Je vais vous en montrer. Alors, hop, je prends la souris. Bon, il faut que je quitte là. Non, je quitte là. Ah oui, attendez. Vite, attends, là, je ne suis pas à l'aise. Voilà. Donc voilà, ça c'est la première forme que nous avons créée. À l'époque, lorsqu'on cherchait sur Internet, on ne trouvait pas cette forme-là de pointu comme on la présente là. Et on travaille avec des bois nobles. Donc on travaille le merisier et le chêne. Bon, là, c'est du merisier et le tissu, là, c'est une soie. Donc moi, ce qui m'importait, c'était non pas que le bois mette en valeur le tissu, mais l'inverse, c'est que le tissu mette en valeur le bois, d'où la création de ces petits nœuds. Hop, si j'y arrive, je trouve une autre. Alors ça, c'est la nouvelle collection. Donc là, cette fois-ci, on est sur un chêne. Donc le chêne a la particularité d'avoir des lignes dans son bois. Et on a fait quelque chose de beaucoup plus graphique et on est parti sur un tissu, cette fois-ci plutôt art déco, qui correspond à la tendance dans les mariages aujourd'hui. On veut beaucoup de champêtre et de glamour et de romantique. Donc ça, c'est la toute nouvelle collection. Et on est toujours sur la même forme de bois. Mais on en a une seconde que je vous ai cette fois-ci emportée. Donc, qui est celle-ci? Donc on est là cette fois-ci sur une forme concrète de nœud en bois. Et cette fois, le textile a été rajouté par-dessus le nœud en bois. Alors, il y a une chose aussi importante que je n'ai pas dit, c'est l'esthétique de ce nœud. Moi, je voulais qu'il y ait une confrontation entre les matières que je travaille pour la cérémonie, qui sont des matières de belle qualité, et le côté brut du bois. Donc c'est la raison pour laquelle les nôtres, enfin nos modèles de bois, ne sont absolument pas travaillés. Ils sont vraiment très sobres et très simples dans leur finition. Si vous feuilletez sur Internet, vous verrez que dans les nœuds papillons en bois, bien souvent, le bois est très très travaillé. Ce sont souvent des ébénistes d'ailleurs qui proposent ces accessoires. Alors que là, la démarche est un petit peu différente dans l'approche. Nous avons également deux finitions au niveau des bois. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, il s'agit de la même pièce. Là, il a été traité avec un vernis. Donc là, c'est une composition maison de l'ébéniste. Parce que tous nos bois doivent être protégés. L'été dernier, il y a eu des mariages où il faisait très très chaud. Et au départ, nos bois, on ne les traitait pas. On coupait le bois et on posait simplement le tissu dessus. Et l'acidité de la sueur a endommagé les nœuds papillons. Donc cette année, on s'est dit, voilà, il faut pallier absolument ça. Donc on a posé dessus des vernis, hein, ce qu'on pourrait appeler des vernis. Donc il y en a un qui est très peu visible à l'œil nu, ce qui fait qu'on garde le côté naturel du bois. Et on a le second qui, lui, est un peu plus classique, qui fait ressortir le veinage et qui fonce un peu la pièce. Donc les clients ont le choix entre ces deux finitions. Voilà. Hop. Et puis, voilà. Et puis donc ça, c'est la collection des cotons. Voilà, je voulais montrer celui-ci aussi. Donc c'est comme celui qui est affiché ici, là où on est cette fois-ci sur du Liberty, donc toujours dans l'esprit champêtre du moment, là, qui plaît bien. Avec des couleurs un peu plus vives. On essaie de se démarquer un peu et d'être le plus proche possible de ce qui se fait dans les tendances pour la création. Aujourd'hui, il y a un réel engouement pour tout ce qui est création maison, le faire soi-même, hein, le DIY. Et donc, les collections de textiles pour l'habillement et la création manuelle sont assez développées. Donc on se sert, enfin en tout cas moi, je suis assez je fais très attention à ça pour proposer ce genre d'objets avec des choses qui sont dans les commerces, qui sont en train d'émerger. Alors comment je travaille ? Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup, qui est assez curieuse, et je vais souvent sur des salons qui sont pas forcément dédiés au textile. Ça peut être le salon maison et objets, ça peut être salon du végétal. Et dans tous ces salons, vous allez avoir une tendance qui va ressortir. Et à partir de là, moi, je vais pouvoir derrière travailler, ruminer dans mon coin et aller chercher ce qui m'intéresse pour le proposer derrière aux clients. Voilà. Avez-vous des questions à poser ?
Moi, peut-être vous précisez aussi votre insertion dans le territoire, parce qu'on en a parlé un petit peu, mais visiblement, les collectivités locales, enfin la gouvernance territoriale, vous connaît peu. Il y a quand même des initiatives. Ce que vous dites à travers votre veille des tendances, je trouve que c'est fabuleux pour un territoire comme le Toircé. Il devrait s'enrichir de votre veille.
Alors, ce serait... Oui, il faudrait leur dire.
D'ailleurs. Et alors,
ce qui est assez rigolo, c'est que lorsque j'ai été invitée, donc ici... Et il y a eu le petit magazine qui est passé dans les différents lycées. Et j'ai une cliente qui travaille, je pense, au lycée Jean Moulin à Thouars, et qui a lu l'article et qui est venue me voir avec le magazine et qui avait mis un petit post-it en me disant « Mais dites donc, Madame Lussault, vous allez à Poitiers ?» Là, je dis « Ben oui, je suis invitée. » Et elle me dit « Bah ouais, mais c'est fantastique. » Alors, ça m'a fait sourire parce que peu de gens me connaissent. Ils savent que je fais des nœuds en bois, les gens, c'est pas le problème. Mais après, ils n'imaginent pas jusqu'où je peux vendre, et même en robe de mariée, ils n'imaginent même pas pour qui je peux travailler et jusqu'où je peux travailler. Cette année, je travaille par exemple pour quelqu'un qui est en Dordogne, c'est pas à la porte à côté. Il y a 2 ans, j'ai travaillé pour quelqu'un qui habite dans les Pyrénées. Donc c'est vraiment assez éclectique, voilà. Et non, nos politiques ne s'imaginent vraiment pas qu'une si petite société puisse travailler avec des gens comme ça sur le territoire national, hein. C'est clair. Mais ils me connaissent physiquement, puisque sur les expos, bien évidemment, quand il y a les inaugurations, ils passent devant mon stand et bonjour madame, comment allez-vous ? Voilà, oui, ils me connaissent. Ouais.
Oui, mais ils ne vous connaissent pas comme ressource potentiel de créativité pour le territoire. C'est ça qui est... Enfin, vous n'êtes pas la seule, hein. C'est un constat qu'on fait maintenant depuis le début qu'on a lancé cette démarche créativité territoire. C'est affolant de voir à quel point la France, les gouvernances territoriales, les gouvernances politiques, quelles qu'elles soient, et que ce soit le nouveau monde ou l'ancien monde, ça se ressemble, c'est l'incapacité qu'ils ont de comprendre que les ressources aujourd'hui, la ressource de toutes les ressources, c'est la cervelle humaine. Et donc c'est ça qu'il faut gérer. C'est plus on n'est plus autant du fordisme.
Mais je disais tout à l'heure à Tam, je trouve fantastique. Enfin, à côté de chez moi, dans un tout petit bled, il y a une dame qui travaille au commissariat de Thouars, mais qui, à côté, est une sculptrice sur porcelaine froide extraordinaire. Elle est reconnue, elle est primée, et elle n'est pas du tout mise en valeur. Jamais, jamais. Elle ne fait aucune expo sur le Toircé.
Vous nous donnerez ses coordonnées.
Ah, mais oui, avec grand plaisir. Mais avec grand plaisir. Oui, oui. Elle est sur toutes les expos d'art du coin. Franchement, c'est dommage, quoi.
Mais peut-être y a-t-il des questions ? Moi, j'ai pris la parole.
Oui, attention.
Petite question, c'est très bien les nœuds papillons, mais est-ce que vous avez songé à autre chose ? Cravate, par exemple ?
Alors là, la cravate, moi, je ne le ferai pas. Parce que la cravate, c'est essentiellement un travail sur le bois. Ou alors, il faudrait que je fasse simplement un tout petit élément de la cravate en bois et le reste en textile.
Je pense qu'il y a un système.
Mais la tendance est tellement le nœud papillon en bois que bon, j'y ai pas pensé, hein, honnêtement. Je laisse mes collègues faire dans ce domaine. Moi, je me maintiens au nœud papillon puisque c'est la demande actuelle. Mais pourquoi pas dans l'avenir ? Voilà, c'est possible, hein. Je vais m'adapter. C'est pas un souci. Mais à côté de ça, je fais aussi des bouquets de mariée, toujours avec cette idée de recyclage. J'utilise des anciens livres. Et avec les pages des livres, je construis des fleurs et j'associe ces fleurs papier à des fleurs de création en art textile, avec des plumes, des perles, enfin bref. Alors non, j'ai pas fait encore avec du bois, parce que l'ébéniste qui travaille avec moi, là, il est moins créatif que moi, lui il est très carré, et j'ai un peu de mal parfois à lui faire comprendre ce que je veux. Oui, bah, à voir. Pour l'instant c'est papier et art textile. Pardon.
Oui. Surtout utiliser les copeaux de bois pour les bouquets. Là, il y a un joli travail à faire.
Oui. Les tailles de crayons, il y a plein de choses. Hein. Ouais.
Mais bon. Merci en tous les cas, Madame Musso.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Et puis on termine donc par Adèle Renaud et Paul Chaigne qui vont nous présenter en tant qu'étudiant entrepreneur. On peut vous positionner comme ça. Voilà. Les deux micros marchent, donc vous pouvez...
Je vais essayer de ne pas parler trop fort, parce que j'ai une grosse voix parfois.
Mais l'enregistrement sera parfait.
Bon, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on est deux jeunes diplômés, donc de l'IAE de Poitiers, donc ça fait partie de l'université de Poitiers. Adèle en master 2 communication et moi master 2 marketing.
On vient tout juste de les valider là en septembre 2017, et juste à la suite donc de ces diplômes, on a créé notre SAS donc, au mois d'octobre sur Poitiers.
Ouais, donc je vais raconter la petite histoire à Lyon. Donc on a tous les deux fait notre stage de Master 1 à Lyon l'année dernière. Donc Adèle dans une petite confiserie à l'ancienne, c'est sympa, et moi dans une salle de sport. Et comme on sortait souvent sur les péniches du bord du Rhône, donc c'est des lieux entre bars et boîtes de nuit qui n'ont pas toujours de vestiaire. Et au vu des 40 degrés l'été dernier à Lyon, Adèle voilà, avait souvent des robes assez légères. Et, du coup, elle n'avait pas de poche. Donc, c'est moi qui prenais tout. On était parfois un petit peu en galère pour les cartes bancaires, les clés de l'appartement que tu accrochais à ta bretelle. Et un soir, en rentrant, je pense que c'est venu naturellement. Tu n'as pas forcément peut-être trop réfléchi. Ouais. Voilà, elle m'a dit bah, pourquoi personne n'a inventé des soutiens-gorge avec des rangements intégrés. Et là, bah, moi, je me suis dit que c'était une génie. Hein, donc, quelques mois plus tard, on est parti sur cette idée, on est devenu étudiant entrepreneur. Donc comme on le dit souvent, d'avoir eu statut, c'était vraiment un point clé dans notre aventure, parce que c'est à ce moment-là où on s'est dit, ben, on est entrepreneur, il n'y a plus de retour en arrière, on ne tournait pas en rond dans notre chambre, allez, est-ce qu'on se lance, on ne se lance pas, on s'était réellement lancé, et je pense que c'était un point clé de l'aventure.
Ça a été le point de départ et donc on a obtenu ce statut en octobre 2016. Donc ça a été un an d'étudiants entrepreneurs en plus de nos cours donc à l'IAE. En fait, on avait cours toute la journée à l'IAE et pendant 3 mois, on a fait un DU en fait grâce à ce statut. Donc un DU où on a un peu abordé tous les métiers de l'entreprise, donc comptabilité, juridique, etc., qui nous manquaient un peu dans nos formations pour devenir entrepreneurs. Donc pendant 3 mois, on a suivi des cours du soir et on a développé notre projet. Et à la fin de nos masters à chacun, on a pu faire notre stage pour la création de notre entreprise. Donc ça a été vraiment presque 6 mois chacun, voilà, donc, pour créer l'entreprise, pour faire les fondements, réfléchir vraiment aux produits à chaque étape. Et donc on a pu, grâce à ça en fait, se lancer tout de suite après les études en tant que dirigeant et lancer tout de suite après la marque. Alors que si on n'avait pas fait ça et qu'on avait dû faire un stage dans une entreprise classique, on aurait vraiment perdu du temps et aujourd'hui on n'en serait pas là. Donc ça a été en plus ce statut étudiant-entrepreneur et nous on conseille à toutes les personnes qui ont l'opportunité de le faire de foncer. Parce que c'est pas grave si après le projet n'aboutit pas, c'est vraiment quand même un bon point.
Un petit exemple que j'avais trouvé ça dommage. Déjà, on était les premiers à l'IAE de devenir étudiant entrepreneur. Et il y a un de nos professeurs, un jour en classe, qui a demandé à tous les étudiants, on devait être 30, qui voudrait être entrepreneur plus tard. Et je pense qu'il y a la moitié de la classe à peu près qui a levé la main. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais le seul dans la classe qui avait vraiment entendu parler un peu par hasard de ce statut. Et donc c'était assez dommage. Donc on espère que l'IAE va proposer ça aussi aux étudiants désormais. Je pense que ça va être fait d'après ce qu'on a entendu.
Ouais. Oui, parce que donc suite à notre projet à l'IAE, il y a d'autres étudiants aussi l'année dernière qui ont eu le statut un peu plus tardivement que nous, mais qui ont du coup découvert ça. Et ça a été vraiment un plus. Et donc là, pour l'histoire donc, de Eye the Moon, on a créé un soutien-gorge donc, avec des cachettes secrètes. Donc on a eu l'idée il y a un an, mais après il y a eu toute une phase de réflexion liée à de la propriété industrielle, liée à savoir voilà, si ça existait déjà ou pas, si on était les premiers à y penser. Alors on s'est largement rendu compte qu'on n'était pas les premiers à y penser, mais que voilà, plus tôt, c'est-à-dire dans les années peut-être 60, 80, peut-être que des personnes y ont pensé, mais peut-être que les mœurs n'étaient pas encore prêtes. Et aujourd'hui on s'est dit que c'était bon, que pour nous les femmes d'aujourd'hui étaient prêtes à assumer ce genre d'accessoires de mode. Et donc on a voulu se lancer et on a vu que bah voilà, toutes les étapes se mettaient bien et qu'on pouvait avancer, qu'on arrivait à évoluer. Donc moi je faisais les croquis, tous les dessins liés à la lingerie. Ça c'est aussi par hasard, par rapport au projet, on se rend compte qu'on a des compétences qui sont liées, qui n'étaient pas forcément liées à nos études, parce que j'ai toujours dessiné en fait, des dessins voilà, de mode, d'habillement, des robes, et j'ai toujours adoré ça et j'ai pris des cours d'art pendant 2 ans quand j'étais au lycée. Complètement par passion, et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis en mesure de dessiner des croquis de lingerie alors que c'est pas lié du tout à mes études. Et donc on travaille avec une modéliste parce que toute la partie conception couture on la maîtrise pas du tout, et c'est très technique, et ça on s'en est aperçu en faisant le projet, parce qu'on s'est dit on se lance dans la lingerie. Ma grand-mère qui est couturière m'a dit vous êtes fous, c'est beaucoup trop difficile. Et en fait, en rencontrant les bonnes personnes, avec une modéliste qui est vraiment expérimentée, on arrive à faire de belles choses, je pense.
Oui, on va vous le montrer. Voilà.
Donc, voici le soutien-gorge. Alors, donc ça, c'est le premier modèle. Pour
donc,
le moment,
c'est quand même très différent de ce que vous avez pu montrer tout à l'heure.
C'est très différent, et en fait, on a axé ça autour de beaucoup de critères. En fait, il y a tout l'aspect confort qui primait. Alors, ça, c'est le premier prototype, et après, il y en a un deuxième. Parce que donc, il y a un premier prototype qu'on fait avec la modéliste qui subit après des modifications, évidemment, et qui est le produit après final. Et donc, ça ressemble, on dirait vraiment que c'est la même chose, mais nous, on voit tous les petits changements. Et donc, il y a des zips sur les côtés, tout simplement comme ça, et en fait on peut glisser sa main à l'intérieur et donc y ranger carte d'identité, passeport pour aller en voyage, argent, clé d'appartement, tout ce qu'on veut. Et il y a également des rangements dans les bonnets, donc je vous montre une vue d'au-dessus. Juste ici en fait, on peut glisser donc son doigt à l'intérieur, et là on peut ranger une clé, un ticket de vestiaire quand on va en soirée, on peut ranger de l'argent, il y a plein de choses possibles, imaginables. Et donc il y a les deux rangements dans les bonnets qui se situent ici et les deux rangements au niveau des basques sur les côtés. On a décidé en fait de partir sur quelque chose de très confortable pour les femmes. Pour nous c'était essentiel, donc le tissu c'est du coton et du micromodal, ce qui fait que c'est très très doux au toucher. Et ça, on ne s'en aperçoit pas en fait, sur le web, on ne s'en aperçoit pas sur les photos. Et donc, on essaye de rencontrer un maximum nos clientes pour qu'elles puissent toucher en fait, vraiment la matière. Et on est parti sur donc, un premier soutien-gorge sans armature en dessous. Parce que moi et beaucoup de mes copines et beaucoup de femmes, je pense, aujourd'hui, on a un petit peu marre des armatures. Et on a vu des études qui montraient que ça pouvait couper la circulation du sang, justement comme vous le disiez, si c'est mal fait, si c'est pas la bonne taille, etc. Et donc, comme c'est quelque chose de très complexe et que nous, on peut pas adapter vraiment à chaque cliente, on a décidé de pas mettre d'armature et de partir sur quelque chose de beaucoup plus souple et qui apporte du maintien grâce aux coutures, en fait, et grâce à la mousse dans les bonnets. Donc ça, c'est la modéliste vraiment qui travaille sur ces choses-là, sur ces aspects un peu plus techniques.
Moi, je voulais juste en revenir un peu sur Poitiers, comment, là, par exemple, Grand Poitiers nous a aidés. Ce qui était sympa pour nous par rapport à une ville comme Nantes ou des grandes villes, c'est qu'on est deux jeunes étudiants et on a l'impression que tout le monde a voulu nous aider d'un coup, et c'était assez sympa. Je pense que dans d'autres villes, comme je disais, Toulouse, Nantes, Lyon, on n'aurait pas eu ces opportunités. Donc par exemple, on a eu le pôle Pépite qui a des partenariats avec une Extenso, les experts comptables. Donc on a pu rencontrer notre expert comptable. Il y a l'université de Poitiers qui nous a attribué une aide de 3 300 €. On a gagné un prix Pépite de 2 500 €. On travaille avec le CEI, qui est le Centre d'entreprise et d'innovation basé au Futuroscope, et qui fait partie de Grand Poitiers. Donc c'est vrai qu'en cherchant un peu, en creusant, on a rencontré plein de personnes. Et il y a quand même énormément d'opportunités sur Poitiers pour des jeunes entrepreneurs, surtout dans le secteur un petit peu innovant.
Oui, c'est sûr.
Je trouvais intéressant tout à l'heure les innovations que vous proposiez. Je ne sais pas si vous avez des aides sur l'innovation, par exemple. Non, ouais.
Parce que c'est vrai que sur Poitiers, on a vu que les personnes qui étaient autour de nous étaient assez réactives, voilà, notamment liées à l'innovation. Nous, notre produit est innovant. Voilà, ce n'est pas une invention, c'est quelque chose qui a déjà été pensé au préalable par plein de personnes différentes. Mais personne ne l'a vraiment commercialisé et personne ne l'a fait comme on le fait, avec des zips sur les côtés de cette manière-là. Et donc, ça reste un produit innovant.
Après, oui, vous parlez des réseaux sociaux tout à l'heure. Donc, nous, c'est vraiment notre quotidien. Là, on a lancé une vidéo un peu de présentation de notre produit récemment, il y a 3 semaines. Et cumulé, on va bientôt atteindre les 1 million de vues. Donc, c'est assez impressionnant pour un lancement. Pour nous, on ne s'y attendait pas du tout. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup à avoir de la visibilité, même si c'est quand même difficile, comme c'est un produit nouveau, de convertir les gens qui sont attirés en acheteurs.
Et alors voilà, on est basé sur Poitiers, on a créé la SAS à Poitiers, mais notre but n'est pas du tout de rester seulement à Poitiers ou de vendre ici. C'est vraiment d'atteindre plutôt des grandes villes avec des jeunes femmes qui sortent, qui vont en soirée, qui peuvent aller au restaurant souvent, etc. Et ou même des femmes qui vont en voyage. Donc en fait, notre produit va correspondre à peu près à tout type de femmes, à tous les âges. On se rend compte que ça peut plaire à des femmes d'une vingtaine d'années comme à des femmes d'une soixantaine d'années. Et nos clientes, d'ailleurs, sont vraiment les deux types de femmes. Et en fait, voilà, on passe par le biais d'Internet pour tout ça, donc les réseaux sociaux. Il y a eu les médias aussi qui nous ont beaucoup aidés. Et on est sur la plateforme donc, de financement participatif Ulule pour prévendre nos produits. Et donc là, comme on se lance juste et que nous, on sort juste d'études, etc., on n'avait pas encore de grands moyens financiers à mettre dans notre entreprise. Et donc, on passe par Ulule pour prévendre les produits. Et donc, les clientes achètent en fait maintenant. Ensuite, on récupère l'argent et on pourra ensuite produire et envoyer les colis, du coup, un peu plus tardivement. Donc, c'est aussi de la confiance des clientes. Hein. C'est un pari un peu qu'on fait. Et donc, on a 45 jours de campagne. On a un objectif de 150 préventes. Et là, on a atteint la moitié des préventes. Et il nous reste encore à peu près 25 jours. Donc, c'est plutôt positif pour le moment.
Oui, juste encore une fois, pour revenir à la région. Là, c'est le deuxième financement participatif qu'on a fait. On en a fait un premier financement avec J'adopte un projet. Donc c'était vraiment sympa, ils étaient à l'écoute. Par rapport à des plus grandes plateformes comme Ulule, qui voilà, c'est des grosses plateformes, donc ils sont pas à côté de nous en train de discuter. Avec J'adopte un projet, c'était sympa, on a fait une belle campagne. Ils nous ont vraiment conseillé, on a été à leur rencontre. Et c'était génial de faire ça avec eux.
C'est complètement différent et voilà, je pense que quand on est une entreprise ici et qu'on a des clients dans la région, il vaut mieux aller vers une plateforme comme J'adopte un projet. Et là, on est sur Ulule pour atteindre vraiment un marché un peu plus européen, mais voilà, il faut savoir aussi aller vers les personnes de la région. Enfin, si vous avez des questions particulières, on essaie de faire.
Peut-être, je vais donner la parole après Jean-Marc, mais vous y réfléchissez après, vous pouvez répondre directement à la première question, mais j'ai l'exemple d'un jeune qui est à Sciences Po qui a fait un peu la même démarche que vous de créer une plateforme. Mais en même temps, l'institution n'était pas tout à fait prête à accompagner. Pour eux, c'était un peu bizarre, un étudiant entrepreneur. Donc, vous avez un peu soulevé la question avec l'IAE. Est-ce que l'institution s'est armée un peu mieux, peut-être ? Bon, il y a Pépite, effectivement, mais si on veut changer un peu les mentalités, parce que l'enjeu de Poitiers, c'est quand même de passer d'une ville administrative qu'elle n'est plus, puisque tous les CSP+, ils vont vers Bordeaux plutôt, une ville entrepreneuriale. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Mais je vous laisse réfléchir à ça. Et puis Jean-Marc Coué peut intervenir.
Non, moi je vais faire un peu d'humour, moi. Merci, monsieur, parce que au moins vous avez pensé aux hommes. Parce que comme ça, on n'a plus à pas transporter les clés de madame. C'est et ça. Puis on va pouvoir y mettre le paquet de clopes, on va pouvoir mettre plein de choses. Et transformer la femme en baudet. Mais on va à l'envers de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la condition féminine. Faites attention quand même. Non, la chose que je voulais savoir, c'est le prix.
Oui, alors le soutien-gorge est à 58 euros et chaque culotte qu'on vend est à 20 euros. Donc ça fait un ensemble à 78 euros. Voilà.
Une autre question. Là, on a parlé du soutien-gorge, mais est-ce qu'une envie subite arrivera pour les bustiers ?
Alors ça, c'est envisageable. En fait, il se trouve que notre volonté, c'est vraiment d'aider les femmes dans plein de domaines différents. Donc là, déjà, on est sur voyage, festival, soirée, voilà. Et on veut correspondre en fait à toutes les femmes, à toutes leurs envies. Et si on sent que c'est quelque chose qui est une attente de nos clientes, je pense qu'on partira vers ce type de produit. Et en fait, on va bientôt partir vers le monde du sport. On va vite partir vers l'habillement. Et notre but, c'est d'avoir vraiment une marque qui est complète autour d'un produit pour la femme qui est pratique, qui est confortable et qui est bien pensé par rapport à l'utilisation. Aujourd'hui, toutes les femmes nous disent que leur jean est insupportable parce que les poches devant sont toutes petites et que les poches derrière ne sont pas sécurisées. Et il se trouve que voilà, nous, on veut vraiment faire attention à la femme. On est parti sur le soutien-gorge, donc qui était le plus gros pari pour nous, le plus risqué, je pense. Et ensuite, on veut se développer, donc ça pourrait venir les bustiers.
Est-ce que vous avez envisagé de faire le concours
Lépine ?
Non, on nous pose souvent la question. Je ne sais pas si notre produit est vraiment adapté parce que on n'est vraiment pas les premiers à y avoir pensé en fait. Donc après, oui, ça peut être. On pourrait se renseigner pour voir pourquoi pas. Oui.
On est très intéressé par tout ce qui est vintage et un peu parce que je pensais à vous qui êtes collectionneur. En fait, le premier ensemble est vraiment vintage dans l'esthétisme et on a développé la petite culotte qui allait avec, donc qui est une culotte haute et qui se fait très très peu actuellement aujourd'hui. Eh ben, vu comme ça, pas forcément, mais portée, c'est très sexy.
On pourra vous montrer une photo après.
Non, il n'y a pas de poche. Et après, justement, pour les femmes qui sont plus modernes et moins dans le vintage, on a développé une petite culotte un peu plus shorty, qui est un peu plus sexy dans les caractéristiques d'aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, par exemple. Ça dépend des femmes.
Une question aussi.
Peut-être
parce qu'il y a Internet.
Oui, ouais. Oui, si Internet.
Allez-y, je...
Non, mais le temps que tu cherches, je peux répondre.
Alors, moi, j'avais plusieurs informations à vous donner, puisque tout à l'heure, j'ai fait la présentation, j'ai parlé de l'ouverture donc, du BTS dans la région. Moi, je voulais aussi revenir sur le fait que la région avait ouvert ses formations dans le cadre de l'innovation. Alors, même si cordonnier-bottier, ça peut paraître un métier ancien, traditionnel, et main, mais c'est un métier qui revient parce qu'il répond à des besoins pour les prothèses, pour les personnes qui ont des problèmes de pied. Et donc, ils remettent au goût du jour des métiers et ils les amènent vers l'innovation. Et ça, c'est une grosse volonté de la région. Et cette ouverture de BTS s'est faite dans le cadre donc, du plan 500, du plan de l'innovation. Et je parle de ce BTS parce que les BTS des métiers de la mode font de la conception. On met en place une créa lame et on aura donc, on souhaite avoir en tout cas à la hauteur du financement des régions bien sûr, avoir du matériel technique. Et le travail des élèves de BTS, c'est de travailler sur des nouveaux produits, des nouveaux concepts. Et vous pouvez aussi les solliciter si vous avez une idée pour travailler en partenariat. Ça fait partie même de leur épreuve d'examen. Alors c'est sûr qu'elles débutent. Mais elles peuvent aussi vous amener des idées nouvelles et vous aider dans l'entreprise. En tout cas, nous, on encourage beaucoup ce travail des jeunes entrepreneurs et puis on souhaite aussi qu'elles deviennent, ils deviennent tous, je dis elles, j'ai tendance à dire elles parce qu'il y a beaucoup de filles, pardon, ils deviennent aussi demain des entrepreneurs comme vous et ce goût-là, il faut le faire dès le début de l'entrée en formation. Donc le fait que vous puissiez venir et les solliciter parce que vous voulez qu'ils créent, on ne peut pas savoir le résultat, mais voilà, on travaille régulièrement avec toutes les entreprises et toutes les personnes qui souhaitent nous faire part de leur projet.
Okay. Mais je pense que ça pourrait être très bon pour l'avenir pour nous et parce qu'on a aussi cette envie-là d'aller vers des étudiants parce qu'on a quasiment leur âge, voilà, à peu près. Et ça peut leur donner vraiment des idées et l'envie de se booster pour aller vers leurs rêves, on va dire. Et du coup, c'est vrai que nous, pour le lancement, on y a pensé, aller vers des écoles d'art, etc., pour mettre sur pied notre premier ensemble. Et on a préféré aller vers quelqu'un qui était très expérimenté pour ne vraiment pas se louper sur le premier ensemble. Mais par contre, je pense qu'à l'avenir, maintenant qu'on commencera à avoir une base un peu plus solide d'entreprise, chaque nouveau produit, on pourrait l'étudier avec avec des élèves.
Alors, ils n'ont pas, c'est vrai, forcément ces compétences-là. Ils ne peuvent pas remplacer une modéliste experte et encore moins en lingerie parce qu'ils en sont extrêmement éloignés. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est un savoir-faire qu'on apprend en entreprise actuellement. On ne peut pas le faire en formation. Enfin, il a disparu, hein, comme vous avez vu sur les représentations, parce qu'on est passé dans les métiers de la mode de beaucoup de spécialités à plus que celle que je vous ai montrée. Il doit en rester à peine 9. Hein. Mmh. Voilà, et on avait plus de 11 au début. Donc, on a regroupé des formations ensemble. Donc, la lingerie et corsetterie, c'est un domaine des plus complexes dans les métiers de la mode. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à Poitiers, au lycée du Dolmen, on a la 3D. Donc, ils font à partir des patronages la représentation de vos modèles en simulation en 3D avant la conception. Donc ça, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui l'ont. Ouais. Et vous pouvez du coup travailler, avoir des modélisations de vos produits avant même qu'ils soient commercialisés. Et souvent, les modélistes en particulier n'ont pas ce logiciel qui coûte assez cher. Et du coup, tout à l'heure, j'ai expliqué qu'on créait une créa lab, mais notre objectif, c'est vraiment de le partager avec les jeunes entrepreneurs et de laisser notre matériel et nos plateaux techniques à disposition des jeunes comme vous. Et donc, votre modéliste peut aussi venir travailler avec nos élèves et faire des modélisations avant de concevoir votre produit.
D'accord, okay. Super.
Je vais juste vous montrer quelques photos, comme ça, vous verrez. Des photos un peu plus mode, on va dire.
Et qui prouvent que la culotte haute est sexy.
Oui, bien sûr.
Oui. Ouais. Tout à fait. Mmh. Ah bah oui. Mmh. Donc là, on a les deux modèles de culottes portées.
Donc je vais vous montrer la vidéo. Est-ce qu'il y a le son sur la vidéo ? Ouais.
J'espère que c'est pas trop fort.
Ouais.
Le temps qu'on trouve le son, justement, je pensais à un lien. Est-ce que vous savez qu'il existe une école internationale de DJ à Tercé ? On les a fait intervenir.
Ah ouais ?
Ça peut les intéresser.
Bah oui, c'est le but, ouais. Ouais, les soirées, les festivals.
Après, ouais, pour les soirées, là, on va sortir un prochain ensemble, normalement en décembre, qui sera noir avec de la transparence, du plumetis, quelque chose peut-être qu'on peut considérer un peu plus sexy, on va dire. C'est bon, ouais.
On en a ras-le-bol de la fameuse pochette de soirée. On en a marre de perdre ses clés, de pas les retrouver et de pas pouvoir rentrer. On n'en peut plus de soucher les fesses pour vérifier que son portefeuille n'a pas disparu. Et franchement, c'est la honte de rendre un ticket de vestiaire dans cet état-là. On a toutes déjà galéré. Et ça, c'est terminé. Salut, nous sommes Adèle et Paul. On vous souhaite la bienvenue à l'Observatoire, notre lieu de travail, qui est aussi notre salon. On s'est fixé comme mission de vous permettre de sortir en toute liberté en ayant plus près de vous vos affaires précieuses. Pendant des mois, nous avons dessiné, appelé, calculé, rédigé, trié, prototypé. Et on peut désormais vous présenter Vintage Dreams, le premier ensemble avec cachette secrète. Ce soutien-gorge unique a des cachettes sur les côtés et dans les bonnets. Vous allez pouvoir danser en toute liberté. Vintage Dreams est pratique, esthétique et confortable. Vous allez même pouvoir voyager l'esprit tranquille en rangeant vos affaires précieuses en toute sécurité. Fini les galères, devenez une femme high the moon en soutenant notre projet.
Donc c'est vrai qu'en voyant cette vidéo, une des questions qu'on nous pose souvent, c'est comment est-ce qu'on fait quand on est habillé ? Donc pour répondre à cette question, on a fait une vidéo, voilà, on va peut-être pas la montrer, on a fait une vidéo dans notre appartement avec une modèle qui essaye au moins 10 hauts différents pour montrer qu'il suffit de passer la main sous le t-shirt et on voit à peine la peau en fait. Mmh. On voit peut-être selon les hauts un peu la peau, mais c'est vraiment pas gênant. Et aussi, juste après cette vidéo, on a été dans un bar à Poitiers faire une commande avec ce soutien-gorge. La modèle avait un haut classique et le barman n'a rien vu. Donc c'était assez marrant.
Ouais, elle a pu payer directement sa consommation avec sa carte bleue qui était rangée dans son soutien-gorge. Et il a cru qu'elle la cherchait dans son manteau. Enfin, il n'a pas du tout fait attention et c'était pas du tout choquant. Ou on n'avait pas l'impression qu'elle se déshabillait. Ou voilà, enfin, c'est facile à récupérer. Mais ça, comme c'est un produit nouveau, bah, il faut encore le temps de rassurer les femmes et voilà, qu'elles s'habituent. Pour nous, ce confort et cette praticité, et pour elle, à quelque chose d'encore inconnu.
Et juste pour répondre à votre question peut-être de tout à l'heure, nous, on pense, après en avoir parlé, que les écoles, par exemple l'IAE, n'étaient pas forcément prêts à ce qu'il y ait des étudiants entrepreneurs, parce qu'ils ont tellement l'habitude que leurs étudiants fassent leur stage dans des grandes entreprises. Après, nous, on se dit, on est en Master 2. On savait le risque qu'on prenait. Si ça ne marchait pas, ben, on n'avait pas de stage et peut-être qu'on n'avait pas de boulot directement après. Donc nous, par exemple, ce qu'on voulait faire, on en a parlé à nos professeurs, c'est d'intervenir à l'IAE, de présenter devant les amphis notre parcours, le statut étudiant-entrepreneur. Donc on espère qu'ils vont nous contacter rapidement pour que ça soit fait et qu'il y ait un maximum d'étudiants-entrepreneurs dans les années à venir.
C'est une excellente chose. Ouais.
Et en fait, on se rend compte que dans les écoles, enfin en tout cas, nous, c'était le cas dans la nôtre, tous les cours et tous les conseils des profs, etc., sont axés pour qu'on aille travailler chez Google, chez Air France, chez la BNP, etc. Et nous, on n'a jamais été comme ça, Paul et moi, on n'avait pas du tout envie. Et il se trouve que, voilà, comme on vous l'a dit au tout début, à Lyon, moi, j'étais dans une confiserie à l'ancienne où on était 5 employés, et Paul était dans une salle de sport où ils étaient aussi 5 employés. Et on n'a jamais eu envie d'aller vers ces grands groupes et d'être un petit pion qui fait partie d'un service qui est très large où on n'a vraiment pas possibilité d'agir. Et c'est pour ça aussi que nous, on voulait absolument être entrepreneur et qu'on avait fait ce pari-là. On savait qu'on allait devenir entrepreneur ensemble. On se l'était parié, enfin, on avait parié là-dessus à Lyon, on se l'était promis. Et on ne savait pas encore à ce moment-là sur quel produit. Et voilà, après, ça s'est fait très rapidement et c'est possible même quand on est jeune, mais faut se donner les moyens, quoi.
Je pense que c'est un bon réseau à développer justement en lien avec d'autres réseaux tels que celui qu'évoquait Béatrice Mongella. Et je pense par exemple que dans notre région, il manque une antenne du MOUVJ. Ça existe au niveau national. Il n'y a pas ça en Poitou-Charentes et en Aquitaine, je ne crois pas non plus. Mais voilà, c'est des choses à développer. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être en rester là puisque le week-end s'annonce. Mais peut-être encore une.
On y est allé.
Voilà, ouais. Donc, je pense qu'ils essayent d'être dans cet esprit de regrouper des jeunes entrepreneurs et de mélanger les centres d'intérêt de façon à créer de la créativité et de l'innovation. Parce que l'innovation, la créativité, on en a parlé un petit peu, elles viennent soit d'un savoir-faire ancien qu'on met en numérise. L'intervention de tout à l'heure qui était sur la culture, la Bretagne, enfin des choses anciennes, l'histoire de la mode, c'est là où on va aller chercher l'innovation. Ça peut être un démarrage de l'innovation et puis mis avec des matériels modernes qu'on peut trouver maintenant qui permettent aussi de faire du prototypage, des produits uniques. Ça va relancer l'économie et ça, c'est important. Donc du coup, c'est important que vous puissiez avoir des lieux pour vous regrouper. Et là, en tout cas, il y en a un.
Bien, en tous les cas, merci.
Merci.
Et bon week-end à tous. Et donc, on vous enverra, Céline vous enverra tous les éléments de présence et de lien. Surtout.
Ceux qui avaient des présentations, est-ce que ça vous dérange que je